Alors, j'ai pris, comme souvent fait, vous savez, on vous annonce un colloque, on vous demande un titre, vous en prenez un qui vous passe par la tête, en vous disant, c'est pour plus tard, j'aurai bien le temps de m'en occuper. Et j'avais donc proposé comme ça, un peu pour faire, regarder en arrière, regarder devant, derrière, devant. C'est-à-dire, au fond, me poser la question de où j'en suis. Où j'en suis, et grâce à vous, j'aimerais pouvoir savoir davantage où j'en suis aujourd'hui. Mais vous voyez bien que la difficulté qui se présente quand on se demande où j'en suis, c'est de savoir au fond si en avançant, est-ce qu'on progresse? Parce que quelque part, on sait bien qu'il y a une sorte d'intuition, de parti pris premier qui s'est comme ça, qui a pris forme, et puis ensuite au cours duquel on ne cesse de tourner, de revenir, d'expliciter, bref. Alors bien sûr, on devient un peu plus savant au cours des ans. Mais est-ce qu'on progresse véritablement? Est-ce qu'on ne fait pas que redéplier, redéployer, expliciter quelque chose qui déjà se cherchait au départ et connaissait comme ça progressivement, d'élucider? Ou est-ce que, ce qui est plutôt mon sentiment, qui est le contraire, c'est que je commence seulement maintenant. Je commence seulement à m'y mettre. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui a précédé était marche d'approche, était tâtonnement, balbutiement. Et ce sentiment de plus en plus fort chez moi, qui est que je commence seulement à m'y mettre, c'est-à-dire je ne fais que commencer. Donc vous voyez bien ce qu'il pose de difficulté. Si je me demande où j'en suis, est-ce que je ne fais, sans m'en rendre compte, que gérer des restes, retirer des fils déjà tirés, mieux ramifier peut-être ce qui n'était pas encore suffisamment? Où est-ce que je ne fais effectivement aujourd'hui que débuter, avec sentiment étrange, sentiment qui rend modeste en tout cas, que je commence seulement à m'y mettre, et donc ce qui précède n'était que du préalable, des prolégomènes, des préambules, enfin bon, la langue est riche pour le dire. Notamment dans ce sentiment que j'ai, que c'est seulement maintenant que je pourrais commencer, je mets du conditionnel en plus, n'est-ce pas, à trouver ma phrase, puisque mon activité essentielle c'est d'écrire. Qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase, comme ce qui se passe, surgit, survient d'un point à un autre, se lève incertain, puis se décide. Une phrase qui est ce qui, d'un point à un autre, dans la question de qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive d'un point à un autre, n'est-ce pas? Une autre question pour moi, c'est que dans mes débuts, quand il fallait relire un livre que j'avais écrit, je n'aimais pas ça du tout. Maintenant, mon grand plaisir, c'est de retravailler mon texte. Essayer d'arriver à faire tenir une phrase, à lui donner sa consistance, plutôt ce que je vais appeler sa tension. Alors j'ai dit phrase, c'est là que ça commence, la phrase. Il ne s'agit pas bien sûr de la façon d'écrire. Je déteste rien de plus que le bien écrit. J'ai horreur de ça, le bien écrit. Il ne s'agit pas non plus de style. La notion est trop personnelle. Mais de la façon où je d'un point à un autre, donc c'est là, un point jusqu'à un autre point, on aventure sa pensée. De la façon dont notre esprit donc se risque, s'ébroue, j'aime bien ce verbe, se rassure, s'inquiète, se déplace et se récupère, cherche déjà à se désennuyer. Parce qu'une phrase, ça commence à installer quelque chose, donc il faut déjà commencer à le miner, le saper, faire qu'on puisse aller passer à la phrase suivante. Pour dire d'un mot, il s'agit de la façon dont notre esprit se met en tension. Cette notion de mise en tension qui me paraît importante. Oui, quand je dis la philosophie, c'est pas du style. On a beaucoup travaillé récemment sur le style des philosophes. J'en viens toujours à cette grande phrase d'Héraclite quand il dit, la plus importante peut-être de son message, quand il dit « Ce qui écoute, non pas moi, mais le discours. Huc emu alla tulugu acusantas. » On connaît surtout la suite. Il faut reconnaître que tout est un. Bon, le tout est un, ça c'est l'affaire. Mais je préfère le début de la phrase qui commence par écouter, acusantas, ceux qui écoutent, non pas moi, huc emu, alla tulugu, non pas mon discours, mais le discours que chacun de nous, comme ça, commence d'articuler. Or, je suis donc totalement à l'écart de tout ce qui est de se raconter en philosophie. Eux-mêmes, ma propre histoire ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de commencer d'articuler du logos, c'est-à-dire de l'intelligible qu'on puisse partager. Donc, au fond, ce qui serait à l'œuvre, en tout cas ce qui m'intéresse, qu'il soit à l'œuvre, c'est la façon, cette mise en tension de l'esprit qui produit la phrase, qui l'a fait lever, l'a fait débuter, la porte progressivement dans son développement. Ce phénomène premier peut-être en amont de ce que nous appelons penser. Dès qu'on dit penser, on pense à des objets de pensée, du cogitatum. Bon, déjà c'est en ordre. Non, la mise en tension première, n'est-ce pas, cette sorte d'ébrouement qui fait que quelque chose commence à se lever. C'est la façon donc dont nous nous mettons en tension et dans la phrase et l'expression. Je crois que notre effort au cours des ans, si j'ose dire, c'est de réfléchir à ce qui fait que nous puissions rendre plus juste, en tout cas plus sonore, en tout cas plus audible, n'est-ce pas, cette mise en tension par laquelle on pense. Alors il y a un terme de Nietzsche là-dessus, que j'aime pas beaucoup, enfin le terme, j'aime bien Nietzsche, mais qui d'abord m'a je sais pas très bien qu'en faire, je trouve un peu désagréable, ce qu'il appelle idiosyncrasie. Alors pour les jeunes chinois, chinoises qui sont ici, je vais quand même préciser le sens du terme, idiosyncrasie, vous entendez idiot dedans, idiot, hein. L'idiot, c'est du particulier, l'idiot. Donc, c'est pas vraiment une injure quand on dit quelqu'un qui est idiot. Mais on dit qu'il est dans son particulier, et donc il a perdu le commun de l'intelligible. Et syncrasie, vous entendez dans crase, comme en linguistique, une crase, n'est-ce pas, en phonétique. La syncrasie, c'est une sorte de mélange qu'on fait avec soi. Ce mélange que nous formons chacun singulièrement, en particulier, ce mélange qu'on forme de soi à soi, avec soi, n'est-ce pas. On est tous une idiosyncrasie, on se constitue, et au fil des ans, on se sédimente, on s'accumule en idiosyncrasie. Ben, je dirais que pour moi, ce qui fait l'idiosyncrasie, c'est cette mise en tension, cette façon singulière que nous avons tous de nous mettre en tension. Et je crois que quand on est amené à faire ce que je fais, amené à faire ce matin, à savoir regarder derrière soi, puis regarder devant soi, faut pas avoir froid aux yeux, hein, Eh bien, c'est de savoir comment rendre son idiosyncrasie, c'est-à-dire cette façon particulière dont on fait mélange avec soi-même, de la rendre productive. De me rendre donc cette mise en tension qui nous singularise, c'est de la rendre féconde. Le reste, ce qu'on pense, vient après. Façon de vous dire que s'il y a une chose qui ne m'intéresse pas, c'est me connaître. On dit que se connaître, notice et automne, vous savez, c'est le départ de la philosophie, de la sagesse, enfin, il faut commencer par ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, et de moins en moins. Ce n'est pas donc de me connaître qui m'intéresse, c'est où j'en suis. Où j'en suis. Et donc, comment pouvoir rendre cette idiosyncrasie dans laquelle chacun de nous, au cours des ans, s'enferme, voire se fossilise. Enfin, il y a cette sorte de sédimentation de la pensée qui se fait. Comment la rendre, non pas stérile, mais essayer de la rendre féconde. Et de pouvoir comme ça se mettre en tension, bref, essayer de commencer une phrase. Barthes avait une notion, j'aime bien Barthes pour ça, parce que Barthes c'est pas des grands concepts comme ça, lourds à gérer. Son grand ami Maurice Pinguet, quand j'étais au Japon, m'avait raconté que Barthes avait une notion qui était les manies. L'idiosyncrasie, ça relève des manies, on a tous des manies. C'est pas des manies. Alors, manie opposée à méthode. Ce qu'on célèbre, c'est les méthodes, la méthode. Et en plus, ce mot, je déteste la méthodologie, n'est-ce pas, dont on nous encombre aujourd'hui. Non, c'est l'inverse, les manies. C'est le côté ombreux. Le côté, donc, implicite, clandestin. Enfin bon, la chose qu'on n'ose pas trop dire. Non. La question, c'est comment rendre nos manies fécondes, n'est-ce pas? Notre idiosyncrasie, notre forme singulière de mise en tension, la rendre féconde. Moi, Maurice Pinguet me disait, moi, je ne peux écrire que la nuit, quand il n'y a pas de bruit, et il ne pouvait écrire que dans des cahiers reliés. Moi, j'ai horreur de ça, il faut que ça commence le matin, j'ai horreur des cahiers, il faut que ça soit des feuilles toujours comme ça, volantes, et que je puisse croiser comme des cartes. Bref, chacun a ses manies. Mais ces manies, au fond, c'est peut-être ce qui nous fait penser. Parce qu'au fond, la question c'est quoi? C'est comment s'y mettre, n'est-ce pas? Eh bien, comment s'y mettre peut-être, c'est justement tirer parti de cet idiotisme ou idiosyncrasie dans laquelle nous sommes tentés de nous enfermer, rendre ça fécond, générateur de quelque chose. Alors c'est cette idiosyncrasie qu'on retrouve la façon dont on passe d'un paragraphe à l'autre, et qui fait d'abord un paragraphe, comme un paragraphe se tient. Enfin, se tient, c'est-à-dire se met en tension, fait que ça tient, effectivement, c'est un paragraphe. Et qu'à plus petite échelle, la phrase. La phrase est une mise en tension qui se tient. Et ça qui fait la justesse d'une phrase. Avec ce que sans doute cette mise en tension de la phrase comprend d'insolites, d'aventures, de paradoxes, de façon de se coucher, de se redresser, bref, et qui tend à la phrase suivante. Pour venir au fond, il y a une question, je trouve, qui reste comme ça, peu réfléchie ou pas réfléchie du tout, qui est la question de savoir, si je tire ce fil de l'idiosyncrasie, de la manie productive, c'est à quelle vitesse on pense. Je pense qu'on a tous une vitesse de pensée, une singulière vitesse de pensée. Alors quelqu'un hier a fait allusion au fait que tous les sinologues ne m'aiment pas. Je peux dire ça comme ça pour aller vite. Eh bien, je pense qu'au fond, ce qui me sépare d'autres sinologues, certains sinologues, ceux qui ne m'aiment pas, j'appellerai comme ça, selon cette catégorie, n'est-ce pas, ceux qui ne m'aiment pas, c'est que nous ne pensons pas à la même vitesse. Pas tout. Parce que si je reprends les critiques qu'on m'a faites en sinologie, et si je retire de tout ce qui n'est pas intéressant, à savoir que on me lise pour ne pas me lire, ou on me critique pour ne pas avoir à me lire, enfin pour toutes ces choses qui ne sont pas très intéressantes, je reviendrai peut-être à trois essentiels. D'abord, quand on dit que je néglige l'histoire, c'est pas que je néglige l'histoire, c'est que je pense qu'on peut faire autre chose avec la pensée chinoise qu'une histoire de la pensée chinoise. C'est tout. Je ne néglige pas l'histoire, j'en tiens compte, mais je pense qu'on peut faire autre chose de la pensée chinoise qu'une histoire de la pensée chinoise, et qu'on peut faire une chose qui va faire penser avec la pensée chinoise. C'est mon affaire, penser avec la pensée chinoise. Bon. L'autre chose, quand on me dit que j'essentialise la culture chinoise, non, mais je fais des concepts. Alors, dès que vous produisez des concepts, vous produisez des abstractions, dont vous constituez des essences, effectivement. Mais c'est le fait de la philosophie. Le fait de vie ne sert que ça. Produire des concepts, constituer des essences. C'est pas que j'essentialise la culture chinoise. Et tu l'as bien dit, moi, je ne suis pas ancré dans la Chine. Je circule entre les deux. Autre critique qu'on m'a faite, c'est de me dire qu'au fond, il n'y a plus la Chine et l'Europe. Ça n'existe plus. C'était le monde d'avant, n'est-ce pas ? Qu'il y a le monde d'aujourd'hui qui est où tout se... s'homogénéise, tout se métisse, il n'y a plus comme ça ce qu'ils pouvaient encore faire il y a 30 ans, 50 ans, l'Europe d'un côté, la Chine de l'autre. Oui, mais là, c'est qu'on se trompe d'objet. Mon affaire n'est pas de décrire des différences entre pensée chinoise et pensée européenne. Pas du tout. Mon affaire, c'est de faire travailler des écarts. Faire travailler des écarts pour produire du commun de la pensée, autrement dit, de l'intelligible. Il ne s'agit pas donc d'étiqueter des différences entre ce qui serait pensée chinoise et pensée européenne, mais de repérer au sein de toute pensée. Et mon dernier petit bouquin sur l'intime, c'était au sein de la pensée européenne elle-même, des écarts, c'est-à-dire des mises en tension. Qu'est-ce qu'un écart ? C'est une séparation qui met en tension ce qui s'est séparé. Il ne s'agit pas pour moi de pérenniser une opposition de la Chine et l'Europe du temps où elles ne se connaissaient pas l'une l'autre, mais il s'agit à tout propos, et disons entre les langues, et entre la langue chinoise et la langue européenne, car on voit bien que de Chine il y a une langue européenne, eh bien de détecter, repérer tout ce qui pourrait se proposer à titre d'opportunité d'écart, d'écart comme étant des ressources, n'est-ce pas ? Des ressources qu'il faut comme ça, comme des filons, c'est pas repérer, détecter et ensuite faire travailler pour créer quoi ? Un dévisagement réciproque pour créer de la réflexion. Réflexion au sens propre, premier, de réfléchir. Bon, alors j'ai dit vitesse de pensée. Donc rapidement, cette part de sinologie qui ne m'aimerait pas, parce qu'au fond j'en sais rien, c'est le même pas. Hein. Elle le dit, mais est-ce vrai ? Eh bien, je dirais peut-être parce qu'on ne pense pas à la même vitesse et que moi, si je peux dire mon point de vue, je trouve qu'une part de la sinologie est lente. Pense lentement. Trop lentement, en tout cas pour moi. Au fond, on voit bien que derrière, il y a une question qui est celle du désir. Ce qui fait séparation avec certains sinologues, c'est que on n'est pas le désir au même endroit. Plutôt, je dirais que peut-être qu'ils n'aient pas leur désir dans la sinologie. Or, moi, je mets mon désir, parce que je suis philosophe, je mets mon désir dans ce que je pense. Je crois qu'au fond, on est tous là, n'est-ce pas ? Où mettons son désir, c'est la question de départ. Parce que c'est celle de la mise en tension, qui ensuite, après, on ne fait qu'expliciter ça, n'est-ce pas ? Mais d'abord, où mettons son désir ? Où le loge-t-on ? Qu'est-ce qui nous met en tension ? Je crois que c'est la question effective. Je crains, effectivement, une part de la sinologie comme sinologie ennuyeuse. C'est pas ennuyeuse, érudite, mais non pas savante. Je tiens à cette distinction. Parce que pour qu'une sinologie savante, il faut qu'elle s'interroge. Donc il faut qu'elle produise ses concepts. Il faut qu'elle construise du savoir. Or, l'érudition, ce n'est pas du savoir. On peut accumuler des notes autant qu'on veut. Ça ne fait pas pour autant du savoir. Donc, vous voyez pourquoi je suis nietzschéen ? Parce que je crois à ce que Nietzsche appelait si bien le gay savoir. Fröhliche Wissenschaft. La science Wissenschaft, mais fröhlich. Fröhlich. C'est-à-dire gay, en élan, en allant, alerte, alerte et non pas inerte, n'est-ce pas ? C'est-à-dire pour moi, comment traduire fröhlich ? C'est qui se met en tension. À haute tension. La science à haute tension, oui, c'est ça qui m'intéresse. Fröhliche Wissenschaft. Et je dirais qu'au-delà de la sinologie, je suis qu'effectivement un peu désemparé aujourd'hui de ce que je vois de plus en plus instauré dans l'université et qui n'est pas fröhlich. Qui n'est pas tendu en tension, donc alerte. Ces articles, vous savez, qu'on nous apprend à faire aujourd'hui, ou qu'on devrait apprendre à nos étudiants à faire, n'est-ce pas ? Des articles internationaux pour revues, vous savez, revues à comité international, où on ne parle que de issues, de topics, n'est-ce pas ? Et où ça vous tombe des mains, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de désir. Et en plus, c'est toute cette façon dont l'université se constitue aujourd'hui, n'est-ce pas ? L'université, il ne faut pas se passer sur l'habilitation, après on forme une équipe, des équipes, des centres, etc. Et tout ça s'organise dans une sorte de communication auquel je ne crois pas. Enfin, avoir beaucoup de monde dans son équipe. Tout ça, c'est des choses qui m'inquiètent aujourd'hui, parce que alors je me sens de plus en plus solitaire, parce que je ne participe absolument pas à ça. Moi, ça me tombe des mains. Et dès que je vois que je peux commencer à m'ennuyer, je me retire. Donc, face à ce non-dit, qui s'est un peu cumulé dans une partie de la sinologie à l'égard de mon travail, qui s'est installé progressivement comme une sorte de cordon sanitaire, n'est-ce pas, pour protéger la sinologie, une certaine sinologie de l'influence que je pourrais avoir sur elle, eh bien je dirais que, il y a certaines années, je voulais essayer de convaincre certains sinologues dont je pensais qu'ils ne me comprenaient pas, les convaincre par de bonnes raisons, le fait que je n'étais pas historien, mais que je ne négligeais pas l'histoire, etc., tout ce que je vous ai dit rapidement. Et maintenant, j'ai essayé de faire autrement. Je laisse reposer, n'est-ce pas ? Je ne suis plus dans cette sorte d'effort, de conviction pour essayer de faire entrer dans mon camp ce qui ne voudrait pas y entrer, mais que chacun y a son rythme, plutôt à sa vitesse. Il est temps néanmoins que... Alors, je commence comme ça parce que je voulais me décaler un peu de moi-même et ne pas commencer tout de suite sur ma stratégie philosophique, mais néanmoins j'y viens et je vous en dis quelques mots. Quelques mots... Puisque la question, à mon sens, c'est comment on s'y prend, comment on s'y met, comment on s'y prend. Et je la trouve d'autant plus cruciale pour moi, c'est que je me dis que je commence peut-être à m'y mettre, donc il s'agit de savoir ce que je fais. Pourquoi je suis passé par la Chine ? Alors que, et c'est sans doute ce qui fait divorce entre moi-même et certains philosophes, certains sinologues, vous voyez, lapsus, c'est... Bon. C'est que je ne me suis pas intéressé à la Chine parce que la Chine m'intéressait. Autrement dit, je n'aime pas la Chine. Je sais que ce n'est pas beau à dire, mais c'est comme ça. Ce n'est pas la Chine, je n'ai pas eu la passion de la Chine, je ne suis pas un sinophile, je n'ai pas, disons... Mon désir n'est pas là. Ce n'est pas un désir de Chine qui m'anime. Plutôt, ça a été le fait que, étudiant, je n'ai pas voulu me spécialiser en philosophie. Mon point de départ, il est là. Or, l'institution philosophique nous spécialise, qu'on le veuille ou non. Si vous voulez faire carrière en philosophie, il faut être philosophe de la philosophie antique ou de la philosophie médiévale, il faut être philosophe de la philosophie politique ou esthétique ou morale. Or, quand vous allez en Chine, dans cet ailleurs, il vous faut tout de la philosophie. Vous avez besoin de tout. Vous êtes dans un tel dénuement de pensée qu'alors là, on ne sait plus si c'est la morale, de la politique, de l'esthétique. Non, il faut tout. Tout pour essayer de sortir de la déréliction dans laquelle on s'est mise en quittant le vieux continent. Mon point de départ, il est là. Comment, c'est une sorte d'astuce ou de stratégie. Je parle de stratégie parce que, pas de méthode, de stratégie. Comment on s'y prend ? Mais mon biais à moi, c'était pour ne pas devenir, ne pas avoir à entretenir un certain champ de la philosophie, peut-être passer ailleurs, prendre l'écart, et puis là, d'avoir une sorte de marge de manœuvre beaucoup plus grande. Alors c'est un peu paradoxal, parce que la Chine, ça paraissait à l'époque très spécialisée, mais au fond, c'est une façon de m'esquiver de l'institution philosophique pour retrouver ensuite ma marge de manœuvre telle que je la ferais. Autre chose, je commence d'abord négativement ce que je ne fais pas. Après, j'essaierai de dire ce que je fais. Négativement aussi, je ne fais pas de comparatisme. Parce qu'évidemment, comme je m'occupe et de l'Europe et de la Chine, on dit philosophie comparée. Bit yo josu, comme disent les Chinois. Surtout pas. Surtout pas. Parce que comparatisme impliquerait que je m'occupe des différences ou des ressemblances, que je range, que je regarde ce qui se ressemble et ce qui ne se ressemble pas. Ce n'est pas mon affaire. Je ne compare pas. Je détecte des écarts que je fais travailler. C'est-à-dire que je repère des embranchements et j'essaie de voir comment ces embranchements mettent en tension la pensée. Et par là, j'essaie de faire que ce qui se détache l'un de l'autre, ce qui bifurque, ce qui s'embranche, ce qui comme ça, ouvre de l'écart, se réfléchissent l'un par l'autre. Et ma réflexion, c'est justement de me glisser dans cette réflexion, n'est-ce pas, ouverte par l'écart, dans cet antre. Plus essentiellement, si je veux dire pourquoi, au fond, je suis passé par la Chine, venant de la Grèce, pourquoi, de la mesure où c'est pas par désintérêt de la Grèce, mais au contraire, je l'ai dit comme ça, ce n'est pas un gag de ma part, ça a été souvent repris de façon ironique quand je disais que j'avais appris le chinois pour mieux lire Platon. Mais c'est mon affaire, c'est comme ça, n'est-ce pas? Donc l'idée que j'étais... comment prendre du recul dans mon esprit? C'était ça ma question quand j'avais 20 ans, en me disant, bon voilà, je suis le produit d'une certaine société française, mes parents étaient professeurs, une tradition, le chuan, comme on dit en chinois, n'est-ce pas? Filiation, héritage, tout ça. Élevé dans les humanités, hein, terme qui disparaît hélas. Bon, bref, mais je veux pas être... Je veux bien être héritier de ça, mais je veux pas que ça coupe les ailes, enfin, que ça me retienne ou me contienne sans que je sache comment. Donc je vais faire ce pas de côté, de là où je ne sais rien. Ce qui m'a intéressé en Chine, c'est que je n'en savais rien. La page blanche, comme l'a dit le président Mao, la fameuse page blanche. C'est-à-dire, j'en sais rien, mais je sais que c'est ailleurs. Je sais que ça me sort de l'Inde européen, je sais que ça me sort de mon histoire, je sais que ça me sort de l'histoire de la Grèce et de la Bible, ça me sort de tout ça. Or, il y a du texte. Or, la seule chose que j'ai appris un peu à faire, c'est à lire. Donc, allons lire ailleurs. Voilà, au fond, ce qui négativement m'a conduit vers la Chine. Je vais essayer de dire maintenant en quelques termes, positivement, si j'ose dire. D'abord, remonter. On peut philosopher de différentes façons. On peut philosopher en prenant position. Moi, ce n'est pas mon affaire. D'abord, position, c'est après. D'abord, c'est remonter dans les parties prises de sa pensée, savoir comment on pense, à partir de quoi on pense. C'est ça mon affaire. Or, du dehors de la Chine, revenir sur les parties prises de la pensée européenne, de la raison européenne, la voir du dehors. Ce qu'elle véhicule comme de l'évidence et que par la même elle ne pense pas. Tout ce que nous ne pensons pas à penser du dedans de notre pensée. Donc, passer par la Chine, c'est essayer d'avoir une prise comme ça. Du dehors, c'est-à-dire à revers. J'aime bien ce terme à revers parce que c'est un terme stratégique. Prendre l'ennemi à revers. L'ennemi, bien sûr, ici, c'est l'impensé. Et puis parce que on sait bien qu'on a appris que philosopher, ça commençait par douter. Le grand verbe cartésien du doute. Or, je me suis rendu compte assez tôt que douter n'était pas le verbe premier en philosophie. Parce que la question, c'est de quoi je doute? Descartes croyait savoir de quoi il devait douter. Il devait douter qu'il avait un corps, il devait douter qu'il y ait Dieu, il devait même douter des vérités mathématiques. Mais il ne doutait pas de tout le reste, plutôt il ne doutait pas de ce qui avait conduit sa pensée à découper, à isoler un objet qui serait Dieu, un objet qui serait les mathématiques, un objet qui serait pensée. Ce verbe-là, pensée, il le prend comme allant de soi, pensée. Mais passer en chinois, est-ce qu'il y a un verbe pour dire pensée en chinois? En chinois, en japonais, non. Il n'y en a plein, aucun, donc bon, l'affaire se complique. Il y a une chose dont il ne pensait pas, c'est qu'il pensait en langue, qu'il pensait en latin français. Donc il n'a pas douté de ça, Descartes. Et c'était pourtant le doute premier. Avant tous les doutes institués, composés, découpés, déjà prêts. Finalement, la réponse, est-ce que j'ai un corps ou pas de corps, c'est pas très intéressant. Qu'il retrouve en fait qu'au début, il doute qu'il a des mains, mais après, il dit, bah oui, finalement, il récupère tout. C'est pas qu'il récupère tout qui me gêne. C'est le fait que, au fond, quand je passe en Chine, je suis pas sûr que la découpe corps, ça, soit pertinent. Ensuite, quand j'ai des textes classiques, Xing, chez Zhuangzi, c'est mon actualisation d'énergie, mais c'est pas distinct de mon âme, il n'y a pas ce couplage-là, ou Shen, ou Ti. Il y a plein de mots pour dire ce qu'on appelons nous corps, que nous traduisons comme ça, systématiquement par corps. Et on n'est pas dans la même situation que quand dans Platon, au début du Théaète, on dit d'un côté il y a l'âme, d'autre côté il y a le corps, psyché, soma, là c'est clair, c'est tranché. Ben justement. Donc je ne crois pas que le doute soit le verbe, et l'opération donc première de la pensée. Qu'est-ce qu'il y a avant le doute? Ça c'est ma question. Et c'est là que je suis Nietzsche, hein, parce que évidemment, avant le doute il y a le soupçon. Le soupçon de ce dont on ne sait pas douter, de ce à quoi on ne songe pas à douter, enfin bon, bref. Donc ce n'est pas le doute. Alors j'appelais ça d'un terme qui est un terme comme ça, que j'aime pas trop parce qu'il a un usage abusif aujourd'hui, mais décaler sa pensée. Alors décaler a deux sens en français, il y a le sens banal aujourd'hui, décaler au sens de bouger un peu sa position normale, n'est-ce pas? Ça j'aime pas trop ce sens-là, n'est-ce pas? Il faut faire du décalé, être décalé. Non, mais il y a un vrai sens plus sérieux, plus ancien, qui est décalé, c'est enlever la cale. C'est pas bouger de sa position normale, c'est enlever la cale à quoi, sur quoi c'est calé. Si vous dites décaler un meuble, c'est enlever la cale sur laquelle le meuble est calé, solide, installé, là on pense, n'est-ce pas? Donc décaler au sens de enlever la cale qui tenait calé, cette cale qui est la cale de notre impensée. Notre impensée qui cale notre pensée. Eh bien donc, je vais en Chine pour retirer cette cale-là et faire que le meuble, la table, se mette à bouger, hein, et qu'elle retrouve ce caractère éminemment non calé, non calable, qui est celui de la pensée. Décalé, donc. Bon, c'est ce qu'on trouve en allemand, si je me retire un peu de Descartes, c'est ce qu'on trouve dans l'allemand aussi beau de Unruhe, c'est pas non-repos, hein, le terme hegelien. Pour dire ce qu'est pensée, le non-repos, n'est-ce pas? C'est qu'une fois que vous avez décalé, enlevé la cale, eh ben, ça bouge, c'est plus en repos, n'est-ce pas? Voilà. Bon. L'affaire, c'est donc de... Alors, j'ai dit comment s'y mettre, comment s'y prendre? Comment s'y prendre? C'est ça la question. Comment s'y prendre? Ben non, la question des prises. Au fond, qu'est-ce que je fais en allant en Chine? Je vais chercher des prises. Des prises. Ce que dit bien l'allemand, dire. Begriff, le concept. Begriff, greifen, aller saisir, hein. La philosophie est une affaire de prise. Donc je viens en Chine non pas pour comparer, mais pour trouver de nouvelles prises. Par exemple, je viens de finir un travail sur le paysage, vivre de paysage. Une prise, c'est quoi? C'est que tout le sémantisme européen, paysage, c'est pays, paysage. Land, Landschaft, Land, Landscape. Et en italien, et en espagnol, et en russe. Paysage se détache de pays. Voilà, terme européen. Eh bien, du dedans de l'Europe, vous ne pouvez pas sortir de ce sémantisme-là. Si j'apprends qu'en chinois, pour dire ce que nous traduisons par paysage, en chinois classique, mais en chinois contemporain tout le temps, on dit shanshui, shanshuan, les montagnes et les eaux, ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est immobile, la montagne, ce qui est mobile, l'eau, ce qui a forme, la montagne, ce qui est sans forme, l'eau, ce qui se voit, la montagne, et ce qui s'entend, l'eau, ben là, j'ai autre chose en main. J'ai autre chose en main qui décale, qui remet en mouvement notre pensée du paysage. Donc ça s'appelle ressource de pensée. Je vais en Chine pour trouver justement des prises autres, n'est-ce pas, qu'après je vais essayer de faire travailler sur la pensée du paysage pour l'ouvrir, pour la reconfigurer, pour la prématiser, bref, pour la faire sortir de son atavisme. Et je prends cet exemple parce que je n'aurais pas imaginé, si je n'avais pas appris le chinois, j'aurais pas imaginé qu'il y ait une autre prise sur le paysage que celle que donne son sémantisme de pays-paysage. Créé pour nous au XVIe siècle, par la peinture des paysages quand elle commence en Europe, dans un sémantisme totalement européen, parce que c'est une affaire qui se passe en Hollande, qui se passe en Italie, voilà un terme européen. Et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est notre vocabulaire européen, qu'on pourrait comme ça décrire du dehors à partir d'autres ressources comme celle du chinois. Donc, question de prise, comment je m'y prends, hein? Parce que l'esprit glisse sur les évidences. Et ce sémantisme, Dieu sait qu'on a écrit ça depuis 30 ou 40 ans, quelle immense littérature nous avons produit en Europe sur le paysage. Mais je ne vois pas, si vous voulez, qu'on ait pris un nouveau départ pour penser ça. Or, la Chine me le fournit sur un plateau, si j'ose dire, n'est-ce pas? Après, à nous de savoir nous en servir. De même du côté chinois, parce que les Chinois persévèrent dans leurs montagnes et leurs eaux. Et donc, c'est des deux côtés, si vous voulez, qu'on ait une sorte d'atavisme ou d'évidence comme ça de la pensée paysage, hein, pays-paysage. Il y a une très belle traduction de notre grand maître en sinologie, Paul de Miéville, qui fait bien entendre, pour traduire un vers de Dufou, il rapporte ça quand la débâcle de juin 40, dans la débâcle de juin 40, se rappelant ce grand vers de Dufou, Guopo Shanrezai, traduit par « Le pays est brisé, reste le paysage ». Bien fait jouer le rapport des deux, n'est-ce pas ? Pays brisé, reste le paysage. Ben là, Paul de Miéville, donc ce grand sinologue français qui a formé la sinologie du XXe siècle, il me semble qu'il y a des ressources qu'on peut faire travailler. Donc, trouver un nouveau départ, c'est ça dont il s'agit. Trouver une nouvelle prise, ça signifie trouver un nouveau départ, des nouveaux départs qu'on ne soupçonnait pas. Qu'on peut imaginer autant qu'on veut, parce que l'imagination est pauvre, parce qu'on peut imaginer autant qu'on veut au sein de la notion de paysage, on n'imaginera jamais ce que disent si simplement les montagnes et les eaux. Bon, pour dire simplement, parce que là je vois quand même qu'on décape un peu, nettoie le terrain, je n'ai pas construit une altérité chinoise. Donc ce procès que me fait porter comme ça sur l'altérité de principe, non. Je fais jouer une extériorité, c'est de l'ailleurs. Savoir si c'est autre, on verra après. Et puis l'autre, il n'est pas entre la Chine et l'Europe. L'autre, il est dans l'Europe tout entière. Enfin, nous sommes dans l'autre tout le temps. Je veux dire, j'ai pas comme ça sectorisé, isolé ce qui serait de l'autre, l'apanage de l'autre en Chine. Absolument pas. Mais il y a de l'ailleurs. Il y a de l'ailleurs. La Chine fait de l'ailleurs. Ailleurs de la langue. Ah oui, c'est ailleurs, n'est-ce pas ? Quand une langue qui ne conjugue pas, une langue qui ne décline pas, une langue qui n'a pas de morphologie, ça fait de l'ailleurs. Et il y a d'ailleurs, j'estime bien, que je n'aurais pas imaginé du dedans de la pensée. Ailleurs de l'histoire, on sait bien jusqu'à une époque récente. Trouver un autre début, un début qui ne soit pas Homère, un début qui ne soit pas la Bible. Ça, d'autres débuts. Donc, qui ne soit pas l'histoire de l'épopée, des tragiques, des gnomiques, etc., et de la philosophie. Ce n'est pas non plus le début du monothéisme, du prophète, du peuple élu. Sortir de ça, sortir de ce grand mouvement de balancier qui a été notre grande inspiration de la pensée européenne, entre Athènes et Jérusalem, n'est-ce pas ? Les Grecs, les Juifs, bonheur grec, conscience malheureuse juive, bref, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche. Cette grande animation-là, belle comme telle, mettant en tension la pensée européenne, on peut en sortir. Ce qui conduit à cette difficulté, qui est celle dans laquelle je suis, qui est dépliée. Il y a du pli dans la pensée, il y a du pli. Nos évidences plient la pensée. Et donc ce travail dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, de déplier ce qui s'est plié, qui est se mettre en difficulté. Cette difficulté qui conduit à refondre la langue, déplier sa pensée, c'est-à-dire essayer de défaire les plis impensés de ma pensée. C'est ça qui est en jeu, n'est-ce pas ? Donc revenir en amont, revenir du... À partir de quoi je pense, j'appelle un pensée ce à quoi ma pensée est adossée. Car toute pensée pense à partir d'un pensée. Mais à partir de votre impensée, vous n'avez pas de méthode possible. C'est là que Descartes bute, n'est-ce pas ? Il faut ce qu'il appelle la stratégie, de la ruse. Ça, je suis plutôt nietzschéen. Il faut donc déjouer pour essayer de trouver des voies de biais obliques, comme ça, pour essayer d'avoir prise sur ce sur quoi on n'a pas prise. Puisque c'est à partir de quoi on pense. On va le penser. Donc il faut de la stratégie. Bon. Alors, tout ça, c'est prolégomène. Il s'agit quand même d'entrer un peu dans le sujet. Maintenant, je vais essayer de vous dire un peu où j'en suis. C'est-à-dire, au fond, présenter un peu rapidement mon filet conceptuel. Parce que je suis philosophe, pour moi, c'est produire des concepts. Des concepts, c'est quoi ? Tout simplement, c'est des notions qui servent d'outils. J'aime pas trop la métaphore de la boîte à outils, mais philosopher, c'est produire des outils qui sont des notions dont on fait des concepts. Et c'est la dimension de concept qui fait qu'on peut utiliser, se servir d'eux. Bon, alors moi j'ai pas de grands concepts. C'est pas la déconstruction, c'est pas l'épistémé, c'est pas ça. J'ai pas un concept phare. J'ai quelque chose que j'essaie de, au fil des ans, comme ça, d'un essai à l'autre, de tisser comme un filet conceptuel. Un filet qui est à la fois conceptuel et en même temps, bien sûr, problématique. Puisque le fait du concept, c'est qu'il constitue des questions. Donc filet conceptuel, en même temps que problématique, et que je tisse d'un livre à l'autre. Alors j'écris des essais. Je suis incapable d'écrire des articles. Quand on me demande un article, pour moi, c'est épouvantable, parce qu'il faut que j'ai la place que je veux. Et puis, Ça passe du tout par commande. Alors, évidemment, quand on regarde mon travail, je regarde un peu rétrospectivement où j'en suis, que je regarde donc derrière, ça paraît un peu hétéroclite, mon affaire, n'est-ce pas ? Un sérieux sans idée, nourrir sa vie, figure d'immanence, la fadeur, paysage, bon, je passe. Mais en fait, c'est enchaîné par une nécessité qui est la mienne, n'est-ce pas ? Si je passe d'un essai à l'autre, je me suis jamais demandé quel serait l'essai suivant. Ce qui venait derrière, en pressant, n'est-ce pas ? C'est que je mets une question en l'air, il faut que je la récupère ailleurs, que je la relance en hier, bon. D'où mon caractère un peu hâtif, je parle de vitesse, hâtif, un peu solitaire aussi, puisque je suis dans cette affaire où d'un essai à l'autre, je tisse un réseau conceptuel problématique qui est ma façon donc d'essayer de... Oui, j'aime bien la phrase de Montaigne, n'est-ce pas ? J'ai un dictionnaire tout à part moi. Ben, je pense que philosopher, c'est se faire son dictionnaire philosophique. Donc je vais vous présenter très rapidement le mien. En quelques concepts. Alors, j'ai retenu 15, rassurez-vous, je m'arrêterai avant. En tout cas, qu'est-ce qui le... Si je regarde un peu rétrospectivement, qu'est-ce qui peut, non pas le justifier, parce qu'au fond, c'est pas là l'affaire, mais disons, lui donner sa cohérence, c'est que c'est un vocabulaire conceptuel pour sortir de l'ontologie. S'il a un sens, c'est celui-là. Comment sortir de la chose dans laquelle nous a mis la philosophie, à savoir la question de l'être. Seinsfrage, hein, comme on dit. Eh bien, alors évidemment, Heidegger, c'est ce qu'il a fait, hein. Sortir de l'ontologie et trouver justement Erinis, par exemple, n'est-ce pas, des concepts en amont, pas, grâce au présocratique, grâce, bon. Mais si on ne fait pas du dedans, mais du dehors, comme j'essaie de le faire, il s'agit, donc au fond, je me rends compte que tous ces concepts que j'ai comme ça, successivement, au fil de mes essais, essayer de, comme ça, de forger, hein, eh bien, ont cette vocation à nous décalé de l'ontologie, de la question de l'être, alors par des biais divers, et souvent sous des visages qui au départ ne sont pas conceptuels. Parce que si je prends les grands concepts de la philosophie européenne, et j'essaie de les travailler, je suis pris dedans. J'ai plus d'initiative. C'est pas... Donc progressivement, j'étais amené à chercher ailleurs, dans les marges du philosophique, ce que je pourrais conceptualiser pour en avoir prise, comme j'ai dit, n'est-ce pas, et reprendre la philosophie à revers, n'est-ce pas, stratégiquement, dans son impensé. Prendre à revers dans son impensé, c'est voilà mon affaire. Le premier concept, qui est sans doute celui qui fait, qui m'a séparé de la sinologie, qui ne m'aime pas, hein, c'est mon premier concept, valeur allusive. J'avais fait une thèse d'État, comme on disait à l'époque, sous ce titre évidemment aberrant, enfin, la valeur allusive. C'était pas un titre de sinologie. De thèse, de sinologie, ce que j'ai appelé après l'allusivité, j'aggrave mon cas, qui est au fond, ben je me suis dit, avant de lire du chinois, il faut apprendre à lire le chinois. Comment lire le chinois ? Je me suis rendu que progressivement, en tout cas j'ai mis ça à l'essai, et je me suis... j'y tiens de plus en plus, donc je ne l'ai pas... puisque j'ai repris cette notion en la proposant au psychanalyste récemment, que peut-être ce qu'il n'y avait pas en Chine, on ne trouve pas en Chine ce qui a structuré la logique du sens en Europe, à savoir essentiellement sens propre, sens figuré, n'est-ce pas ? Ce dédoublement-là, hein, du sens propre au sens figuré, c'est-à-dire le littéral et le symbolique. Cette chose-là, pas, qui nous paraît évidente, dans laquelle on pense. Hein. C'est pas dans laquelle on pense, c'est-à-dire dans laquelle on articule notre pensée, eh bien, n'était peut-être pas... Je ne dis pas qu'elle n'existe pas en Chine, je dis que ce n'est pas ça qui est intéressant en Chine. C'est pas là. On peut bien sûr dire du symbolisme chinois, mais très vite codifié, emblématique, n'est-ce pas ? Par contre, une chose de beaucoup plus importante en Chine, qui est ce que nous n'avons repéré que de façon très locale, qui est l'allusion, comme figure rhétorique, et qui en Chine apprend une toute autre dimension, qui est ce que j'appelle l'allusivité, la valeur allusive, et qui est le rapport du dit au non-dit. De l'importance en Chine du commentaire, de l'importance de la figure du lettré, enfin tout ce qui est, on peut développer ça aussi sociologiquement, c'est-à-dire au fond de l'implicite et de l'explicite. Ça, je crois que c'est le nœud en Chine, de la façon dont quelque chose que j'appellerais plus le discours, logos, mais je dirais, le texte s'organise. Donc, non pas représenter, mais renvoyer à la pensée européenne classique, en tout cas, c'est nécessaire de prospérer dans la question de la représentation. Et là, c'est celle du renvoi. Hein. Je vais, c'est tout simple. Hein. Quand vous faites un poème chinois, moi je lis les commentaires. Hein. Je lis les... Parce que pour savoir comment lire chinois, il faut lire comment les chinois ont lu. Donc lire les commentaires chinois. Hein. C'est ma mesure de sauvegarde. On vous dit en chinois, si vous écrivez un poème, c'est la tristesse. Si vous dites que vous êtes triste, c'est nul. Qu'est-ce que vous dites en chinois? Vous dites que votre ceinture devient lâche. Vous dites que l'âme pousse devant la porte. On ne vient plus vous voir, que vous ne vous nourrissez plus. Donc vous avez toutes ces allusions et trop réduites, n'est-ce pas? Toutes ces façons de biais pour arriver à faire émerger ce que vous ne direz pas, qui reste à l'implicite autour de quoi tout tourne. Ben, l'image chinoise, à quand on parle, c'est comme le drapeau qui bat autour du mât. C'est pas cette façon de voltiger, d'être en mouvement autour de ce qu'on dit. C'est pas autour d'eux. C'est ce qu'ils disent si bien quand ils disent « parler à côté ». Parler à côté. Ou, comme le dit déjà le Lao Tzu, « xiyan », dire à peine. Dire à peine, commencer à dire, parler à côté. Bon, c'est une chose que, si vous n'apprenez pas ça en chinois, vous ne lisez pas le chinois. Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre la langue chinoise, il s'agit d'apprendre le discours chinois. Ce qui n'est pas le discours, justement. Le discours avec cette focalisation grecque, n'est-ce pas, de dire la chose même, et en plus la vérité, enfin tout ce qui vient derrière. Non, rapport, comme ça, allusif, n'est-ce pas. Cette façon de dire à côté, dire à peine, que les Chinois nous apprennent à lire. Donc non pas la figure du dédoublement, sens propre, sens figuré, littéral, symbolique, mais du détour. Du détour, n'est-ce pas. Ce qu'on appelle en chinois « wawan chuchu », n'est-ce pas. Cette façon comme ça, en zigzag, de s'approcher de ce qu'on va dire sans le dire. Et qui donne donc à chercher, et qui fait que la parole est un processus qui vous amène proche, proche de ce qui serait à dire, mais que la grande idée chinoise, c'est que si vous dites, comment dire en français, c'est dit, c'est fini, il n'y a plus rien à dire, donc c'est mort. La parole qui dit se tue. Il n'y a plus de INY, comment dire, d'au-delà des mots, d'au-delà la parole, donc il n'y a plus cette prégnance, il n'y a plus cette sorte de... Bon, et il n'y a plus ce silence qui habite la parole et qui fait qu'on va chercher. Bon, là il y a quelque chose par quoi il fallait commencer, parce que c'est... il faut apprendre à lire ça. Et même ceux qui négocient en Chine aujourd'hui, n'est-ce pas, il faut qu'ils apprennent à lire le silence, il faut qu'ils apprennent... chose à très beau qu'en chinois, pour traduire silence, on dise les 10 000 bruits. One lie, n'est-ce pas. Bon, second concept, alors d'abord c'est un peu historique, après ça ne sera plus, propension. Propension est une notion à laquelle j'avais consacré un petit bouquin, illisible comme titre, la propension des choses. Les gens ont lu la progression des choses. Hein, tout, bon. Propension est un terme en perdition aujourd'hui dans notre langue. Je trouve riche ce qui m'avait amené à progressivement tirer ce fil et à chercher à en faire un concept, c'est que je me suis rendu compte que même mot chinois qui est che, en chinois, se traduit aussi bien par situation que par cours des choses. Que le même mot puisse signifier en chinois, et quand vous lisez les traductions, situation ou cours des choses. Donc, ils nous mettent au point de rencontre, plutôt au point qui défait l'opposition du statique et du dynamique. Alors, nous avons séparé, nous, le statique et le dynamique, et malgré les efforts de Bergson, on est toujours un peu là. Alors là, il y a un mot chinois qui nous met dans le... non pas à l'intersection du statique et du dynamique, mais qui nous met au point où se défait la séparation du statique et du dynamique. Ça, je trouve précieux. Ça, je trouve qu'il fait prise, qui offre un départ. Alors, en plus, les effets sont lourds. Par exemple, si vous pensez en termes de propension, vous sortez de la pensée de la causalité. Alors, la causalité, c'est le grand outil explicatif des Grecs. Aitia, arché, la cause, qui est principe, qui est départ. Bon. Donc, la causalité, explication externe, je me suis rendu compte précisément que la Chine n'explique pas. Elle est lucide. Elle n'explique pas par des causes, elle est lucide des propensions. Donc il faut déplier la langue pour faire apparaître en face de notre grand expliqué un terme que j'essaie comme ça d'amener en vis-à-vis, élucider, faire venir la lumière, ex, n'est-ce pas, faire monter la lumière, élucider, comme vous savez, les lapidaires chinois polissent le jade pour faire apparaître la vénure interne avant de le tailler. Sortir donc de la causalité par la propension, ce qui évidemment, alors, dans les enjeux, après il y a la difficulté, c'est pour ça que je suis dans cette hâte et je suis obligé d'aller vite. C'est que il y a tout ce qui en découle. Notamment que si vous pensez en termes de propension et non plus de causalité, vous n'avez plus à vous poser la question de la liberté, du choix, de la liberté. Parce que la liberté, pour nous, rentre évidemment dans une réflexion sur la causalité, la cause de mon acte, n'est-ce pas, comme le pensaient déjà les tragiques grecs mettant en scène
le personnage entrant dans son acte, pas Ajax qui va se tuer. Bon, est-ce que c'est à cause, à partir de lui, Écône, comme disent les Grecs, ou est-ce que c'est la malédiction des dieux, la terre, qui l'a conduit à cela? Donc, où est la cause, où est le principe de son acte? Voilà la question grecque. Et cette question-là, posée par Sophocle, c'est celle que réfléchit déjà Aristote en posant la question de la liberté, du choix, proairesis, comme disent les Grecs, le choix préférentiel entre deux possibles, lequel je vais choisir, ça c'est grec. Donc le choix, situation très abstraite où je serai à mi-distance, tu parlais de l'âne de Buridan, hein, eh bien c'est ça, c'est-à-dire à égale distance de l'un et de l'autre, et quelque chose en moi qui serait, alors, auquel je tiens, parce que c'est l'événement de la figure du sujet, serait là à choisir entre l'un et l'autre, n'est-ce pas? Bon, ça c'est pas chinois. Il faut comprendre pourquoi la Chine n'a pas pensé la liberté, parce qu'elle a pas pensé en termes de propension, d'inclination, de conditionnement, bref tout ça, ce qui fait que la situation abstraite où il y aurait ce moment où je serais, comme ça, entre l'un et l'autre, pouvant choisir aussi bien l'un que l'autre, comme vous savez, Hercule, entre le vice et la vertu, n'est-ce pas? Il y a un vilain tableau au Louvre là-dessus, le chemin qui descend du vice avec des fleurs, le chemin aride qui monte de la vertu, et il se trouve comme ça entre les deux, que va-t-il faire? Ça, c'est une mise en scène tragique, magnifique d'ailleurs, hein, de la pensée grecque. À côté de quoi la Chine est passée? Je tiens à ce « à côté de », passer à côté de, n'est-ce pas? Qui est une ressource que la Chine n'a pas pris, n'a pas développée, elle en a développé une autre. Au fond, le concept que j'ai trouvé le plus pertinent dans la réflexion stratégique de la Chine, c'est ce concept que j'ai traduit comme ça, potentiel de situation, che, en chinois. L'idée que, au fond, ce qui est au départ, c'est quoi? C'est pas le sujet, sujet-initiative, mais c'est la situation, et la situation conçue comme un potentiel, la situation conçue comme une ressource, la situation conçue comme étant, oui, la ressource à partir de laquelle moi je vais chercher, détectant ce qu'il y a de filament ou de filon en elle, comment, disons, en tirer parti et l'exploiter. Bon, il y a cette phrase quand même que je trouve très belle dans le Sun Tzu quand il est dit « Courage et lâcheté sont un effet de potentiel de situation ». Au lieu de penser le courage et lâcheté comme étant vertu du sujet, vertu, défaut, je suis là, je suis courageux, de dire non, au fond, c'est la situation, ce que nous appelons nous la situation. Mais il faudra justement développer ce concept-là, qui est un concept non développé ou sous-développé de la pensée européenne, qu'on appelle comme ça situation, hein. Penser comment, en fait c'est la situation qui me rend lâche ou courageux, n'est-ce pas? Comme disent les Chinois, n'est-ce pas, dans le Sun Tzu, dans les commentaires du Sun Tzu, pour rendre vos troupes courageuses, faites pas comme faisaient les Grecs, n'est-ce pas, qui réunissaient les troupes, et puis on buvait du vin, et puis le général faisait un beau discours, une harangue, ces harangues qu'on a eu tant de peine à traduire quand on était adolescent, n'est-ce pas, en grec ou en latin, ça c'est pas chinois du tout. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Vous faites entrer vos troupes loin en territoire ennemi, vous leur coupez tout votre repli, vous les bloquez dans la position de courage, vous les acculez au courage, ou comme disent les Chinois, vous faites monter haut et vous enlevez l'échelle. Enlever l'échelle, bloquer l'autre dans la position de courage, il n'y a pas de choix, c'est pas une question de liberté, c'est pas qu'il veut être ou non courageux, c'est qu'il est, il ne peut pas faire autrement, sinon il est mort. Disponibilité. Alors ça c'est un concept dont j'ai besoin face à liberté. La grande question, vous la voyez, quand je dis que les Chinois ne peuvent penser à la liberté, aussitôt je me trouve recevoir plein de coups sur la tête, non pas seulement donc de mes amis sinologues qui ne m'aiment pas, mais protestation chinoise monumentale, comment une Chine aurait pu ne pas penser à la liberté? Qu'est-ce que la liberté? La question est là. Je crois qu'il faut distinguer deux sens. Et donc, pour faire jour à ce qui ne serait pas le sens grec de liberté, l'éleutéria, eh bien, j'ai comme ça essayé de chercher dans la langue banale, en marge du vocabulaire théorique, en marge du vocabulaire moral, disponibilité. La liberté, parce que la liberté se conçoit par affranchissement. Je crois que c'est ça que les Grecs nous apprennent. Affranchissement des conditions. Ce qui conduira à l'autonomie. Bon, il y a une liberté, si vous voulez, qu'on trouve partout, je crois. C'est ce que les Grecs appelaient exousia. Exousia, c'est faire ce qui me plaît. Je concède que tout le monde, ça peut conduire à tout le monde, exousia. Ou, dit autrement, qu'on me fiche la paix. Mais les Grecs ont promu un autre concept sous exousia qui n'est pas exesti exousia, qui est eleutheria, eleutheros, l'homme libre. Et alors ça change. D'abord parce qu'il y a cette grande opposition grecque des hommes libres, ceux qu'ils ne sont pas, homme libre ou esclave. Et puis ce combat grec qu'on a oublié, des cités contre le grand roi, puis contre, etc. Les cités grecques se sont battues contre. Dans un mouvement de liberté politique.
Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça en Chine, parce qu'il n'y a pas eu la cité. Donc la liberté conçue comme affranchissement, effraction, c'est-à-dire affirmation d'une indépendance, d'une initiative du sujet. Alors, on trouve, ce que tu as très bien dit tout à l'heure, entrevoir, on trouve parfois la pensée chinoise entrevue, quelque chose qui est de cet ordre. Par exemple, dans le... non pas Sun Tzu, mais Sun Tzu, quand il dit que le sin, l'esprit, on ne le contraint pas. Donc là, on a quelque chose où Sun Tzu, pensant ce qu'est l'esprit, entrevoit quelque chose, mais qui n'a pas été développé en Chine, et qui a été le grand développement de la pensée grecque et européenne ensuite, qui est la liberté. Donc il l'entrevoit, mais il ne fait pas grand-chose, parce qu'il fait autre chose. Tu as très bien évoqué ce matin, je crois que c'est ça, c'est qu'au fond, toute pensée développe certains possibles, et donc en laisse d'autres de côté, ou referme d'autres possibles qui vont rester des possibles sous-développés, mais dont je découvre qu'ils sont sous-développés que si j'ai une autre pensée qui les a développés en regard. Alors, disponibilité, pour moi, c'est bon. Oui, je bricole, hein, bien sûr, parce que j'essaie de travailler en marge du vocabulaire philosophique constitué, donc je bricole. Et disponibilité m'a intéressé parce qu'il y a position, mais suffixe ponible, ouverture de la position, puis 10. Le 10, c'est la position ouverte. Bon, je crois que c'est ça que recommande le sage chinois, c'est d'être disponible. J'avais écrit un petit bouquin, Un sage et sans idée. C'est ça qui signifie sans idée. C'est qu'il n'a aucune idée arrêtée. Il n'y a pas de il faut qui s'impose à lui. La belle phrase de Confucius. Quatre choses qui caractérisent le sage, n'est-ce pas ? Sans idée, sans nécessité, sans il faut, sans position ou goût. Pas de position arrêtée. Sans moi. Sans moi. Ouh. Pas de moi. Pas de moi. Alors, les traductions contemporaines des entrées de Confucius sont traduites sans égoïsme ou sans moi avec un grand M. Non. Sans moi. Et les commentaires disent très bien, c'est parce que j'ai pas de moi que j'ai pas d'idée. Ça fait boucle, n'est-ce pas ? Et au fond, je n'ai pas de moi constitué, je suis disponible. Disponible signifie que... Oui, c'est pas du tout donc une liberté par affranchissement, par effraction, l'émancipation qui a tellement, comme ça, fébrilement passionné l'Occident, c'est ouverture de la position que, comme dit Confucius, je peux faire l'un aussi bien que l'autre. Comme dit Confucius, il n'y a rien que je puisse ou que je puisse pas, ou que ou beaucoup. Je suis ouvert à tout. Comme on dit, alors, très belle pensée du juste milieu à la chinoise, qui n'est pas un juste milieu médiocre, du milieu à mi-chemin, ni chaud ni froid, point trop n'en faut, mais d'un agan, qui est pouvoir faire également l'un et l'autre. Comme dit Wang Fuzhi, qui est un de mes grands penseurs, 3 ans de deuil à la mort de son père, c'est pas trop. Boire des coupes sans compter à la fin de repas, c'est pas trop. Faites et l'un et l'autre. Le juste milieu, c'est de pouvoir faire un extrême comme l'autre. C'est ça, la disponibilité. Bon, je passe tout ça, j'ai essayé un peu de l'écrire, mais... Alors, concept fiabilité, oui, donc je prends des mots qui ne sont pas du tout des concepts, côté européen, donc j'essaie de faire les concepts, allusivité, disponibilité, fiabilité, hein, pour sortir de l'ontologie, sortir de nos concepts construits, et trouver donc des issues, ou des... Fiabilité face à notre grand mot sincérité. Je crois que la sincérité, c'est une affaire vraiment européenne. Enfin, peut-être ailleurs, mais en tout cas, en Chine, ce n'est pas la question. Et je trouve notamment aberrant ce texte de Kant, Kant, certes vieillissant, mais quand même, avec sa querelle avec Benjamin Constant, vous savez, sur le droit de mentir. A-t-on le droit de mentir ? Et Kant dit farouchement non, en aucune façon, d'aucune manière, etc. Bon. Sinon, vous perdez l'universel de la vérité. Là, c'est quand même aberrant. Là, il y a un point de... Oh, un peu alarmant, n'est-ce pas ? Mais la position de Benjamin Constant, qui est de dire... Justement, manque le concept de situation. Face à l'impératif catégorique de la sincérité, qui nous, chez nous, comme cette vieille grande chose qui est que Dieu voit au fond des âmes, n'est-ce pas, au tréfonds. Quelque chose qui me paraît... C'est pourquoi j'ai besoin d'un autre terme dont je vais essayer de faire un concept en vis-à-vis de sincérité, qui est ce que j'appelle fiabilité. Être fiable. En chinois, n'est-ce pas, quand on dit on est vieux amis, là, au pingyo. C'est pas parce qu'on est vieux, ni parce qu'on est... C'est parce qu'il y a entre nous quelque chose du déroulement qui s'est fait et que progressivement, on est fiable. Pas besoin de le dire, pas besoin de se raconter, pas besoin d'ouvrir son âme, n'est-ce pas ? Mais fiable. Fiable, ça vient. Il y a un terme qui nous gêne aujourd'hui, qui est important pour nous, confiance. Mais quand on me dit « faites-moi confiance », je vous dis « non, je ne vous fais pas confiance. Je n'ai pas de raison de vous faire confiance. » Il faut du déroulement, il faut du cheminement, il faut qu'il y ait du temps accumulé entre nous pour que la confiance vienne. Et quand je vous fais confiance, je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc faire confiance me paraît une parole nulle. Parce que quand j'ai confiance, je ne vais pas le dire. C'est là, n'est-ce pas ? Ceux qui apprennent à négocier en Chine devraient le savoir. Non, je dis ça parce qu'on m'a tellement embêté avec cette question. Les Chinois ne disent pas la vérité, ils ne sont pas sincères, etc. Vraiment, il faut réagir quand même. Dire, ben, si vous voulez négocier en Chine, apprenez à faire, n'est-ce pas ? Venir la confiance, c'est-à-dire débarquer, et puis commencer à tisser des rapports, et puis passer du temps. Il y a un très beau chapitre dans le Zhuangzi, chapitre 5 de Chongfu, où tout est là, n'est-ce pas ? Le prince, il y a quelqu'un qui est manchot, estropié, il a tous les défauts qu'on peut, n'est-ce pas ? Et puis, quand il va quelque part, il ne bouge pas, il ne dit rien, une sorte de magot comme ça, hein. Et puis progressivement, on ne le quitte plus. Et le prince lui donne le trône, mais il ne le prend même pas d'ailleurs, n'est-ce pas ? La confiance est venue, du déroulement, du processus, des choses qui sont, ce qui dans nos rapports se secrètent de jour en jour, au fil des jours, en silence, et qui fait qu'ensuite ça tient, c'est solide, la confiance est là, et qu'on n'a pas besoin de le dire. Bon, donc vous voyez, ces décalages, voilà, ces écarts, c'est ça que je fais travailler. Bon, si je suis dans mon bricolage, pour prendre des notions comme ça, de rien, et en faire des concepts en vis-à-vis des grands beaux concepts de la philosophie constitués, le biais. Voilà quelque chose qui me paraît me faire concept, de biais. Le biais. Le biais. Le biais, évidemment, c'est l'inverse de la méthode. Le biais, c'est toujours comment s'y prendre. Mais d'abord, c'est le biais en stratégie. Belle phrase du Sun Tzu, la rencontre s'opère de face, la victoire s'obtient de biais. Toujours par le biais qu'on l'emporte sur l'autre. Plutôt très belle notion chinoise de Yu Qi. Zheng, rapport de face. Face signifie attendu, signifie à découvert, droit, direct, en frontal. La grande frontalité grecque, logos contre logos, de face. Le biais, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est inattendu, indirect, parfois par surprise, et ce beau concept du Sun Tzu qui est qu'on l'emporte toujours sur l'autre par un surplus de biais, parce qu'on a de biais de plus que lui. Évidemment, si l'autre m'attaque de front, je réponds de biais. S'il m'attaque de biais, je réponds de front. Évidemment, je ne m'immobilise pas dans ce biais. Le biais, c'est ça, c'est cette souplesse qui fait qu'on saisit la chose par un biais ou par un autre, d'un côté ou de l'autre, mais qui n'est pas le frontal. Bon, je n'insiste pas là-dessus, j'ai écrit sur cette affaire. La Grèce est quand même organisée autour d'une frontalité, qui est celle de la démocratie, qui est celle du théâtre, de l'assemblée, du tribunal. Vous avez tant de minutes pour parler dans un sens, tant de minutes pour parler dans le sens inverse. Antilogie des discours, c'est comme ça que la rhétorique en Grèce s'est créée. Discours contre discours. Et c'est comme ça qu'on apprend nos enfants à faire la philosophie, thèse, antithèse. L'antilogie. Bon. Pour avoir enseigné un peu la philosophie en Chine, au Japon, je me suis rendu compte à quel point cet exercice de chercher toutes les raisons qui vont dans un sens, qui forment une thèse, puis toutes les raisons qui iraient en sens inverse, qui feraient l'antithèse, ça paraît vain de défaire dans un second temps tout ce qu'on avait fait dans le premier temps. Donc, le biais, façon de s'y prendre, mais qui est un terme aussi, qui est un terme qui n'est pas... qui est un terme de... Comment s'y prendre ? Comme les artisans, c'est une expression française, le biais du gars. Le gars, l'artisan, comment il s'y prend ? Vous avez un sarment de vigne, comment vous allez couper ? Comment vous prenez la chose pour faire avec ? Sous quel biais ? Vous la faites tourner un peu dans votre main et vous allez voir de quel côté, de quel biais je vais m'en saisir. Ça, je crois que c'est un concept utile par rapport à la méthode. Le grand concept cartésien, concept, n'est-ce pas, rationnel, projectif, n'est-ce pas, méthodique, c'est-à-dire articulé, d'abord ceci, puis ceci, puis ceci. Bon, bref. Le biais. Bien, il me semble que le biais éclaire beaucoup de la pensée chinoise et en rapport à méthode qui est prospectif, énonçable, etc., eh bien, nous met dans quelque chose qui n'est pas l'action, qui n'est pas la conduite, qui est cette capacité à tirer parti des situations que la Chine nous apprend. Cohérence. Cohérence pensée par opposition à sens. Classiquement, dans nos langues, on prend comme synonyme sens et cohérence. Freud le fait encore. Sinn et Zusammenhang. Comment ça qui se tient ensemble ? Cohérence. Eh bien, j'opposerai les deux. Je penserai la cohérence contre le sens. Pour sortir de ce qu'a été le logos tel que nous l'ont appris les Grecs, en tout cas Aristote, le logos sémantikos, le logos qui signifie. La grande phrase d'Aristote, j'ai écrit un petit bouquin là-dessus jadis, parler, c'est dire. Dire, c'est dire quelque chose. Dire quelque chose, c'est signifier quelque chose. Legain, c'est legainti. Legainti, c'est semainainti. Parler, c'est dire. Là, les Grecs, c'est jouer, c'est fini. Au fond, ce qui m'intéresse, c'est d'aller en amont des positions
que constituent les philosophes. Quand on a dit parler, c'est dire, c'est-à-dire que l'egain, c'est l'egain ti, sinon on n'a rien dit, rien dit, on n'a pas dit un ti, on n'a pas dit un quelque chose, et donc c'est vain, dit Aristote, c'est mataios, c'est vain, on n'a rien dit, vous ne dites rien. Et bien là, le choix grec est fait. Et le choix grec, c'est du logos. Alors, il n'y a pas eu que du logos en Europe, bien sûr. Mais il y a eu ce choix massif qui est d'Aristote, bon, qui était dans Platon, qui est d'Aristote, qu'on retrouve dans, encore au XXe siècle, notamment dans la philosophie allemande, chez Appel, chez Habermas, en fait, dans tous ceux qui ont pensé à nouveau frais ce que pouvait être parlé. Comment sortir de ça ? Du parler, c'est dire, et donc dire, c'est dire quelque chose. Il y a forcément un objet du dire, ça. Il y a forcément un objet du dire. Là, évidemment, les psychanalystes, quand j'ai écrit ce petit bouquin, les lacaniens se sont précipités dessus en disant « Ah, ça, c'est ce qui nous intéresse, parce que nous, en psychanalyse, c'est ce qu'on fait. On dit aux gens, parlez, cherchez pas à dire. » Mais c'est ce que j'appelais la cohérence. Cohérence, en prenant le sens latin, « coere », ça tient ensemble. Cohérent, « coere », ça tient ensemble. Sens que les latins connaissaient bien. Je vous cite Cicéron. « Mundu sita apte coaeret, ut dissolvi nullo modo queat. » Le monde est si cohérent, coaeret, et si cohérent avec lui-même, apte, de façon apte, hein, qu'il ne peut d'aucune façon être défait. Ça, je crois que c'est du chinois. C'est-à-dire qu'au fond, la question chinoise, c'est celle du lit chinois. Cette vénure qu'on fait apparaître dans le jade, qui est comment les choses se tiennent ensemble. C'est pas la question du sens, c'est pas la question du message, c'est pas la question du pourquoi, c'est comment ça tient ensemble, comment c'est cohérent, hein, cohérence. Mais c'est pas seulement chinois, c'est comme ça que je lis Héraclite. Pour moi, Héraclite est le penseur de la cohérence, et non pas du sens. C'est pour ça qu'on dit Héraclite l'obscur. Pourquoi est obscur Héraclite ? Parce que si vous lisez Héraclite du point de vue du sens, vous ne le lisez pas. Héraclite se lit pour moi du point de vue de la cohérence, de ce qui fait tenir ensemble, vous savez, les opposés. Les fameux opposés d'Héraclite, n'est-ce pas ? L'harmonia d'Héraclite, c'est comment les opposés tiennent ensemble. Belle phrase entre toutes, n'est-ce pas ? Ceux qui suivent mon séminaire la connaissent par cœur, parce que je la répète tous les jours. Dieu est jour-nuit, guerre-paix, hiver-été, satiété-faim. Dieu nomme la conjonction des opposés. Dieu nomme la cohérence. Dieu est, non pas jour et nuit, hein, Dieu est jour-nuit. Guerre, paix, hiver, été, satiété, faim. Dieu nomme chez Aristote la cohérence, le principe de cohérence, n'est-ce pas ? Donc, c'est ce qui fait que Aristote est très embêté avec Héraclite. Vous savez, dans Métaphysique Gamma, bah, il y a Héraclite avant lui. Et lui, il veut instaurer le discours, n'est-ce pas, de le logos, donc juché sur le principe de non-contradiction. On en a parlé il y a un instant, n'est-ce pas ? Donc, ce logos qui vient de Parménide, position de l'être et du non-être, qui vient de Platon, le sophiste, n'est-ce pas, la pensée des genres, et qui est celui des catégories, chez lui Aristote, qui est celui que, ben, qu'une parole dit quelque chose. Hein. Et il y a, donc il y a un quelque chose, objet de la parole. Et puis avant lui, Héraclite. Héraclite, c'est toute autre chose. Donc on voit qu'il y a un possible grec, qui a ouvert Héraclite et qui s'est trouvé fermé par Parménide, Platon, Aristote. Fermé. Mais ce qui fait que la poésie européenne va travailler par-dessous, dans une sorte de refoulement, pour dire le grand refoulé de ce logos, disons, fermé après Héraclite, et qu'on retrouve par exemple chez Char, à l'époque, chez nous, n'est-ce pas ? Bon, je vois comme ça. Alors, parce que toute culture est une tension entre des cohérences qui prédominent, qui prévalent, qui s'imposent, dominantes, c'est pas, si je dis ça de façon plus idéologique, et donc qui enfouissent d'autres cohérences qui progressivement bah, disparaissent, n'est-ce pas, et qu'on voilà, et que justement passer par une autre pensée permet de repercevoir, de faire réémerger, et voilà. Donc moi je lis Héraclite étant passé par la Chine, n'est-ce pas, pour du point de vue de la cohérence et non plus du sens. Bon, et je pense que alors ce concept de cohérence, j'y tiens parce que par rapport à l'art contemporain, je pense que l'art contemporain nous fait souvent passer du côté de la cohérence, du comment ça tient et non plus du sens. Qu'on en a marre de l'œuvre d'art, message, n'est-ce pas ? Bon, enfin, tout ça. Non, je ne cherche pas. Mais comment ça tient ensemble ? Ce qu'il y a d'œuvre, à mon sens, c'est ça. C'est, voilà. Connivence. Voilà. Ça, encore, c'est mots que je bricole pour en faire des concepts et que je vais essayer d'ériger ou d'élever face à connaissance. Alors connaissance, ça c'est lourd, n'est-ce pas ? C'est la connaissance, Dieu sait qu'on y tient un. Le fameux eidénaï des Grecs, connaître, hein, ce premier mot de la métaphysique d'Aristote, n'est-ce pas ? Tous les hommes, naturellement connaître, fusei, par nature eidénaï. Comme si, alors eidénaï c'est un verbe dont on n'a pas douté, en grec. On n'a pas douté que ce soit une bonne découpe. Or, je n'ai pas d'équivalent en chemin classique de savoir, connaître, n'est-ce pas ? J'ai plein de mots. Mais comme j'ai plein de mots, je n'en ai pas un. C'est pas qui découpe de la même façon que l'a fait oida en grec. Et en plus, oida, c'est toujours en amont, n'est-ce pas, qui est idein, qui est voir. Ce grand lien que ont établi les Grecs entre la connaissance et la vue, que c'est toujours dans la vue que ça se passe, théorique, théoria, c'est bien voir encore dont il s'agit. Et quand l'œil ne voit plus, comme vous savez, c'est l'œil de l'âme qui voit, homma tes psyches. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en vis-à-vis de connaissances qui soient de même statut, de même poids, de même consistance, hein. J'ai hasardé ce terme de connivence pour éviter tout ce vocabulaire qui me pèse, n'est-ce pas, de communion, de symbiose, de tout ce qui est... et la fameuse connaissance claudélienne, n'est-ce pas, du naître avec. Hein. Bon, non, c'est que je trouvais un concept qui soit de même statut, de même rigueur que connaissance. J'ai proposé connivence. Connivence, c'est ce que dit en latin connivence, hein, connivere, cligner des yeux, cette entente implicite par clignement des yeux, n'est-ce pas ? Connivere, hein, ce plissement, comme ça, ces deux paupières qu'on rapproche et qui font, plus qu'un clin d'œil, qui font passer, si vous voulez, une entente. Je pense qu'il y a nous avons tous, sujet que nous sommes, deux registres, nous avons deux pédales sous nos pieds existentiels, n'est-ce pas ? Nous devenons soit plus connaissant, soit plus connivant, l'enfant n'est connivant. Sur le sein de sa mère, dans son giron, il est connivant. Puis progressivement, il se détache de la connivence par la scolarisation, par le langage, par la méthode, par les disciplines qui rangent les objets du savoir, comme ça, et il devient connaissant, surtout en contexte européen, bien sûr. Hein. Quand je me suis, l'invitation du professeur Leroux-Coix qui était ici, promener dans les marges du Vietnam face à des populations qui n'étaient pas les populations majoritaires, donc et qu'on ne sait pas nommer, c'est pas, mais dans ces villages des confins du Vietnam près de la Chine, et je me suis dit au fond comment caractériser le mode de savoir qu'elles ont ces populations qui n'est pas la connaissance. Quand je voyais par exemple, j'avais fait titre, n'est-ce pas, ce pont de bambou où il y a un bambou comme ça, un bambou comme ça, il y a un bambou comme ça, et comment les personnes montaient à pied, n'est-ce pas, sur ce bambou avec leur vélo sur le dos et passaient, et que moi je me disais, mais même j'aurais tellement peur déjà à mettre le premier pied sur la tige, n'est-ce pas, je me dis, comment nommer ce type de savoir qui n'est pas la connaissance? Bon, j'ai essayé de l'appeler connivence, donc avec le bambou, connivence avec les éléments, enfin bref, des savoir, n'est-ce pas ? Mais que le sujet européen a plutôt délaissé par, disons, déploiement ou hypertrophie peut-être de la connaissance. En tout cas, je pense que nous sommes les deux. Nous sommes connaissants quand nous allons à l'école, quand on entre en public, nous revenons connivants en famille, nous revenons connivants dans le rapport amoureux. Ce que Rousseau appelait le babil amoureux, c'est du babil connivant et non pas connaissant. Entre des personnes qui sont en relation, je préfère dire d'intime, elles ne se disent rien. Leur parole sert à entretenir de la connivence. On ne se dit rien, on se dit des rien. C'est plus le lega inti d'Aristote. On se dit des rien. Et quand on se dit quelque chose, entre personnes qui sont en intimité, quand elles se disent quelque chose, c'est comme si elles se disaient rien. Le silence et la parole s'équivalent. C'est ça qui m'intéresse. Parler ou dire, c'est pareil. Ça entretient la connivence de la même façon. Le silence n'est pas mort. On n'est pas gêné de se taire. Et quand on parle, on dit rien. Mais ce rien, évidemment, n'est pas parce qu'il n'y a pas de message. On ne communique pas. On entretient la connivence. Bon. En tout cas, c'est une chose dont j'ai besoin pour parler de l'intime. C'est une chose dont j'ai besoin pour parler du paysage. Connivence dans le rapport à deux. Connivence du paysage. Il me fallait. Et je pense que nous sommes, tout sujet, n'est-ce pas, tantôt plus connaissants, tantôt plus connivants, quand nous sortons plus connaissants, mais quand je me promène, plus connivants. Maturation. Bon, alors encore, ce n'est pas un concept noble, n'est-ce pas, mais qui prend sens pour moi face à modélisation. Ah là, c'est la grande chose grecque que nous connaissons tous, l'eidos, n'est-ce pas, la forme modèle. La forme, le devoir être projeté, l'idéal. Bref, les Grecs ont toujours avec le rapport à la vue, hein, eidos, idein, hein, le fait qu'il y a ce grand concept grec dominant, eidos. Pas seulement chez Platon, Aristote ne s'en sépare pas, et qui est évidemment le concept qui a dominé aussi la pensée stratégique de l'Occident. Pour être efficace, qu'est-ce que je fais? Je dresse un plan. Je fais un plan de guerre, où je tire une courbe de croissance, pour les économistes, n'est-ce pas? Ou je fais un programme électoral dans le monde politique. Bon, toujours projet d'un devoir-être, de l'eidos, du devoir-être. C'est-à-dire que l'entendement qui conçoit en vue du meilleur, comme dit Platon, construit, bien construit, de l'idéal, du devoir-être, et le projette. Mais il me semble qu'il y a une autre ressource stratégique qui n'est pas par modélisation, mais par ce que j'appellerais maturation, faire mûrir. Faire est trop fort. Faire laisser mûrir, lassen. Hein. Là, on retrouve du vocabulaire un peu heideggerien, n'est-ce pas? Se faire laisser, laisser faire, n'est-ce pas? Laisser faire que ça pousse. Hein. Bon. Dans la stratégie chinoise, je pense que c'est essentiel. Parce que vous voyez, tous ces concepts que confiance, comme maturation, c'est des concepts du déroulement. Il faut du processus. Il faut que quelque chose s'accumule sans qu'on y pense, à notre insu. C'est pas ça qui fait ressource. J'ai souvent cité cette anecdote du Mincius, qui n'est pas un livre de stratégie, hein, de l'homme qui tire sur l'épouse de son champ. Vous savez la scène, n'est-ce pas? Pour que ça pousse, je tire sur l'épouse. Évidemment, quand les enfants arrivent au bord du champ, tout est desséché. Et Mincius nous dit, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Vous voulez que ça pousse, vous tirez sur les pousses. C'est bien dit par le commentaire. Jing, vous voulez directement l'effet. Évidemment, vous produisez du contre-effet. Parce que la poussée de la plante est dans la situation. C'est la graine dans la terre qui ne demande qu'à pousser. Donc, ne tirez pas sur les pousses. Quand je vais en entreprise, car je suis souvent amené à y aller, et ça m'intéresse d'avoir un rapport avec l'entreprise parce que ça me change du rapport universitaire. Parce qu'il y a une connivence universitaire, que c'est tout, c'est pas, on s'entend à mi-mot, bon. Non, vous allez en entreprise, vous avez une heure, un petit déjeuner ou un dîner, c'est comme ça. Si vous ennuyez, à la deuxième minute, on vous le montre. Hein. Donc il faut saisir le public comme ça, il pense à toute autre chose, parce qu'il est dans ces appareils, des communications, connexions, etc. Et il faut le saisir et lui faire croire qu'il peut penser, et qu'il l'éprouve effectivement, ça rentre dans son expérience. Donc pour moi, une épreuve, c'est fatigant, mais c'est instructif parce que ça rompt la connivence universitaire, qui est aussi souvent un ronronnement. Je reviens à cet épisode du Mincius. Mincius, tu dis, ne tirez pas sur les pousses pour faire pousser. Alors on pourrait dire, je reste à côté du champ, j'attends que ça pousse, je regarde pousser. Ce qui serait la passivité face à l'activité. Grand intérêt de la langue chinoise, c'est qu'elle n'a pas les modes passifs et actifs. Je trouve ça très beau. Enfin, je n'aurais pas imaginé mettre en question ce qui est quand même deux catégories d'Aristote, le passif et l'actif, si je n'avais pas appris le chinois, où j'articule une langue qui ne connaît pas la ressource. Alors, en chinois moderne, on a des moyens, comme toujours, on peut trouver des trucs pour, mais qui ne pense pas selon le mode de l'actif ou du passif. Ce qui, alors, une langue qui ne conjugue pas et qui ne distingue pas morphologiquement du passif et de l'actif, voyez, ça dérange les choses, ça les décale, enfin bref, ça donne à penser. Eh bien alors, vous pouvez dire, alors si vous ne tirez pas sur les pousses, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez pousser. Non, ni l'un ni l'autre. Ni on tire sur les pousses, ni on regarde pousser, parce que dit Mincius, qui est une banalité, vous binez, vous sarclez au pied de la pousse. Vous aidez la poussée. La plante tend à pousser, et vous rendez le terrain meuble, comme on dit. Vous rendez la situation favorable. Ou comme dit si bien Lao Tzu, aider ce qui vient tout seul. L'art du paysan, l'agriculteur, mais la Chine est un pays d'agriculteurs. Et sans revenir à l'anthropologie, de façon trop simpliste, mais Audricourt là-dessus a bien travaillé. Effectivement, il y a les populations nomades, pasteurs, troupeaux, le pasteur qui part à son troupeau, qui le conduit vers la terre promise, tout ça. Puis un autre décor qui est la Chine, petite plaine, avec une activité essentielle, l'agriculture, faire pousser la plante. Faire laisser pousser. Hein. Alors, en entreprise, ça se commande facilement. Vous imaginez. En politique aussi. J'ai peut-être notre président précédent tiré sur les pouces. Peut-être que l'actuel attend que ça pousse. Enfin. Ni l'un ni l'autre. Favoriser la poussée. Si j'avais à réduire le chômage, par exemple, ça je ferais. Je chercherais à, non pas à dire dans 3 mois, dans 6 mois, non, pas ça, mais amorcer, n'est-ce pas? Et ensuite biner, sarcler, faire que quelque chose effectivement comme possible puisse s'amorcer, n'est-ce pas, du processus, du déroulement.
Bon, en tout cas, je crois qu'il y a là une ressource de pensée. Oui, alors ce qui me conduit à ce thème que je tiens, dont j'ai fait le titre aussi pour un petit bouquin, Transformation silencieuse. J'appelle transformation silencieuse ce qui chemine sans bruit, donc dont on ne parle pas. Silence des deux côtés. Ça chemine sans bruit, donc on n'en parle pas. Silencieux et non pas invisible. C'est là que ça se passe. J'ai pas bien écrit d'ailleurs là-dessus dans mon petit bouquin. Je l'ai repris après. Moi, c'est je change de sujet, mais j'essaie de corriger ce que j'ai écrit avant. Quand j'ai repris ça en présentant ce concept aux psychanalystes, je l'ai repris autrement parce que je me suis rendu compte entre-temps, je n'ai pas assez bien dit, que pourquoi c'est silencieux et non pas invisible, c'est que l'œil est le sens du discontinu. Je regarde ici ou je regarde là, j'ouvre les yeux ou je ferme les yeux. Louis, c'est le sens inverse. C'est le sens du continu et du global. Or, la transformation est silencieuse parce qu'elle est continue et globale. C'est ça qui fait son silence. C'est que rien ne s'en démarque assez pour que je puisse, si j'ose dire, le remarquer. Transformation silencieuse. Ce qui donc implique de penser sur quoi on est tellement focalisé en Europe, qui est l'événement. L'événement est l'affleurement sonore d'une transformation silencieuse. Il n'y a que des transformations silencieuses. Vivre, c'est une transformation silencieuse. Grandir, transformation silencieuse. Et vieillir, transformation silencieuse. On ne se voit pas et vieillissant. Quand on voit une photo d'il y a 20 ans, on se dit « Ah, j'ai vieilli ». Donc c'est un affleurement sonore, une transformation silencieuse qui a cheminé sans bruit, dont on n'a pas parlé, et qui surgit d'autant plus, disons, qui nous frappe d'autant plus dans son surgissement qu'on ne l'a pas vu venir. Donc c'est un concept stratégique, c'est un concept aussi pour l'histoire, c'est un concept à tous égards. Je dirais qu'il ne prend qu'un divorce, c'est une transformation silencieuse, mais on ne garde que l'aspect final sonore, n'est-ce pas, et en fait l'affaire de sujet. Alors qu'en fait, c'est la petite fissure initiale, silence, nuance, réticence, qui a fait son chemin silencieusement et qui fait qu'un jour on dit on ne s'aime plus. Mais on met ça sur le compte des sujets sans avoir vu ce qui a précédé dans la situation et sur quoi les Chinois nous sont attentifs, n'est-ce pas ? Je vais nous montrer bien comment, notamment dans un livre que les sinologues n'exploitent pas parce qu'il est. C'est un livre honteux de la culture chinoise. J'en ai parlé un peu dans mon traité d'efficacité, qui est le Guiguzi. Le livre du maître de la vallée des fantômes. C'est un manuel de diplomatie que tout le monde a lu en Chine, mais dont personne ne parle, parce que c'est un truc honteux. C'est ce qui va à l'encontre de la morale chinoise, tout ce qui est au revers du confucianisme, qui est une intelligence, une cohérence très forte de la façon dont on peut diriger le prince sans avoir à lui parler. Comment on tient en laisse le prince ? Alors, toute la terminologie de tenaille, de pince, comment vous le prenez, vous le saisissez, vous le conduisez, comment vous avez l'oreille du prince, comment avoir l'oreille du prince. Voilà, il y a un très beau traité. Donc, je m'étonne qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de travail fait en sinologie dessus, et que j'essaie de lire en parallèle à d'autres dans mon travail sur l'efficacité. Bref, en tout cas, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est que les gens nous rendent attentifs à ce qui est d'abord à peine fissure, puis qui devient faille, puis qui devient fossé, puis qui devient la rupture. Mais comment ça chemine, ça, n'est-ce pas ? Comment ça travaille, et comment progressivement, effectivement, ça crée la séparation, et que nous avons vu, nous, sous le terme final, théâtral, déclamatoire de la rupture des sujets, alors qu'en fait, c'est la situation qui, comme ça, progressivement, à travailler. Comme on dit, un meuble qui travaille, qui commence à se fendre, n'est-ce pas ? Ça travaille. Bon, en tout cas, je crois que c'est un concept dont on peut faire un concept historique. Finalement, qu'est-ce qu'a fait Braudel ? Qui parle justement de l'événement sonore. Bon, on a pris l'histoire effectivement sur un mode événementiel. Les dates, les rois qui montent sur le trône, ou qu'on extermine, n'est-ce pas ? Les guerres, les traités, tout ça. Bon, puis on sait bien que l'histoire, c'est pas ça. Et Braudel et d'autres, mais bon, l'école des annales nous a appris que l'histoire, c'était pas ça. C'était quoi ? Alors là, ce que Braudel appelait le temps long, la durée lente de l'histoire. Mais pour en dire plus, il est gêné, Braudel. Et il parle même de quasi-immobilité de l'histoire. Quasi-immobilité de l'histoire, c'est une expression difficile pour un historien, la quasi-immobilité. Mais quand on regarde son grand chantier, l'Europe qui passe du, pour dire vite, féodalisme au capitalisme, du 14e au 18e siècle, qu'est-ce que c'est si ce n'est une transformation silencieuse ? Sans sujet, sans grand sujet, sans nom, sans lieu, à Anvers, à Gênes, sans événement, sans date, quatre siècles. Mais effectivement, l'Europe passe par transformation silencieuse d'un régime à un autre. Et la Révolution n'est que l'affleurement sonore de la transformation silencieuse. On dit la Révolution française. Quand ça commence, la Révolution française? Et quand ça finit? J'en sais rien. Le manuel nous dit 10 ans, puisqu'après il y a le consulat. Avant c'était comme on dit l'ancien régime, après il y a le consulat, donc on dit voilà 10 ans, 89, 99. Mais est-ce que la Révolution française a commencé en 89? Non, bien sûr. On dit seconde moitié du 18e siècle, parce qu'il y a des phénomènes économiques, de famine, de tensions sociales qui sont là. Mais on peut dire, moi j'irais plus volontiers, la Révolution française commence avec Louis XIV. Quand Louis XIV déplace la cour de Paris à Versailles, quitte Paris, crée un Versailles lieu du pouvoir, bon, il met en route la Révolution française. Et le premier geste que fera le peuple de Paris, c'est ramener son roi à Paris, le remettre au Louvre. Mais on peut dire que Louis XIV répond à la Fronde. S'il a fait ça, c'est parce qu'il avait vécu la Fronde enfant et que la Fronde l'avait fait souffrir. Bref, bon, on peut remonter, remonter. En gros, si bien que c'est 3-4 siècles où une classe sociale, la bourgeoisie, qui a la puissance économique, veut prendre la puissance politique, c'est son droit. Eh bien, ça met 4 siècles. Ça commence vraiment avec la Troisième République, qui naît de façon très obscure. Et la Révolution française, c'est l'affleurement sonore d'une transformation silencieuse. C'est le trait d'écume au-dessus de la vague. Bon. Et bien, la Révolution, c'est l'archétype du produit européen, chose absolument pas chinoise. C'est parce que la Révolution, c'est la modélisation, c'est la théorie, la pratique, c'est donc c'est l'action. Bon, bref, l'entre comme concept. Alors, entre comme concept, c'est d'abord de penser qu'une préposition peut être concept. Là, j'invente rien. Les grands concepts grecs sont des prépositions. C'est pas Eidos, un grand concept grec. C'est la cause de quoi, l'en vue de, le par quoi, le dia, le eneka plus génitif, le etc. Donc, le grec a pensé par préposition. Ce sont nos premiers concepts, c'est parce que c'est eux qui articulent effectivement le logos, que c'est ce qu'on appelle d'un terme pas bon, n'est pas des prépositions. Simplement, la préposition entre en grec n'a pas eu de destin. C'est impossible, qui n'était pas ouvert, métaxu. Entre en grec est resté l'antre de l'intermédiaire, par exemple le dieu amour, Eros, et entre les hommes et les dieux, métaxu. Ou chez Plotin, c'est l'antre entre, quand on remonte vers l'un premier, n'est-ce pas, les étages, n'est-ce pas, de l'escalier. Les Grecs ont développé une préposition, alors l'ont hypertrophié, hyper développé. Oui, je pense en termes de développer, sous-développer. C'est métaxu, c'est pas métaxu, c'est méta. L'au-delà. L'au-delà de la métaphysique. Le méta de... du métalangage, du méta de l'au-delà. Mais je dirais, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé métaxu, l'antre, qu'ils ont pensé le méta au-delà. Et qu'ils ont donc dédoublé le monde, qu'ils ont construit ce topos tonaidon, comme dit Platon, ce lieu des idées, n'est-ce pas ? Le topos tonaidon, cet autre lieu, le ekai, le là-bas, n'est-ce pas ? Dans lequel on peut effectivement modéliser, construire, opérer. Et ce qui a été la grande force de la pensée grecque, c'est d'élaborer ce plan opératoire qui est le plan des idées. Bon, c'est l'affaire platonicienne, par l'abstraction, par le concept, par la philosophie, élaborer ce plan opératoire, n'est-ce pas, propre, n'est-ce pas, qui est plus dans la confusion du sensible, hein, et qui est, même si Platon, vieillissant, va essayer de récupérer dans le Philèbe ou dans le Timée ce qu'il avait laissé. Bref, les Grecs ont cette intelligence de penser la vertu de l'opératoire par l'abstrait, d'où la géométrie, n'est-ce pas, et le fait que la philosophie européenne a toujours louché sur les mathématiques. Donc ce plan pur de l'opératoire, ce que Platon appelle le monde, enfin le lieu des idées, pas de monde, hein, topos, le topos des idées. Et je crois que, enfin pour moi, une des opérations que je fais pour sortir de la métaphysique, c'est justement sortir du méta. Or, c'est bien que ce méta de la métaphysique, chez Aristote, on peut l'expliquer de toutes les façons, mais il est clair qu'il y a quelque chose qui va au-delà, après, au-delà, et dont on a fait, disons, le lieu opératoire des idées. Parce qu'ils n'ont pas développé l'antre, la ressource de l'antre, ressource possible-là de la pensée, et que la Chine, au contraire, a développé sous cette figure d'une porte à deux battants, entre lesquels passe eh bien, un clair de lune. Du jour aujourd'hui, mais je préfère la lune, dans la graphie ancienne. L'antre est pour moi le concept non métaphysique par excellence. Parce que l'antre n'a rien en propre. N'a pas de propriété, il n'a pas de détermination possible, il est l'antre. Pas de propriété, c'est-à-dire pas de lieu propre, pas d'empropre, il n'est ni l'un ni l'autre, il n'est pas déterminable. Il n'a pas d'en soi. Or, la grande chose grecque, c'est déterminer l'en soi, le katoto, auto-katoto, dit Platon. L'en soi par soi, c'est pas l'en soi. L'en n'a pas d'en soi. Donc, c'est l'en, c'est l'inassignable. Or, il me semble que l'opération de la métaphysique, c'est d'assigner. Assigner, donner son lieu propre, donner sa qualité propre. Assigner. L'en nous fait entrer dans la pensée de l'inassignable. Pour moi, c'est le concept non ontologique par excellence. C'est l'antre du vivre. Nous vivons entre. C'est vrai qu'on peut penser la vie comme étant entre la naissance et la mort. Et les Grecs ont été fascinés par les extrémités, les antikeimena, d'un côté, de l'autre. Et l'antre est l'inconsistant, l'inconsistance de l'antre entre l'entrée et la sortie, le lever et le baisser de rideau. Non, je pense que penser le vivre, c'est penser l'antre. Et comme dit si bien le Zhuangzi, verser sans jamais remplir, puiser sans jamais épuiser. L'antre. Je vide pas, je remplis pas. L'antre. Pas déversé. C'est ce que j'avais opposé à la scène du Gorgias, des deux tonneaux. Le tonneau, vivre comme un tonneau percé. Et il y a deux façons de faire. C'est pas par rapport au tonneau percé du Gorgias, vieille image qui vient du fond pythagoricien. C'est que soit je suis le sage et je bouche mon tonneau et mon tonneau sera plein, satiété, je suis satisfait. Le sage comme ça, autarcique. Ce que propose Socrate, enfin le Socrate de Platon, et à quoi s'oppose Calliclès, le grand adversaire de Platon au sein du platonisme, qui est de dire non, il faut que le tonneau reste percé, c'est le vide, c'est le trou du désir, n'est-ce pas? Pour qu'on ait à verser toujours. Eh bien, entre Socrate qui veut boucher le tonneau, que le tonneau soit plein et qu'on puisse se reposer, à quoi Calliclès dit, mais tu es mort. C'est la vie d'une pierre. Ou alors le tonneau qui reste percé, donc qui cesse de se vider et qu'il faut toujours remplir encore parce qu'il y a le trou du désir et donc un surcroît d'activité, ben je verrai ce qui est le geste de Zhuangzi, verser mais sans remplir, puiser mais sans épuiser, l'antre. Entre. Donc l'antre du vivre qui est l'antre de la respiration, je le pense, c'est pas cet antre. Et puis la belle formule chinoise, le monde c'est antre terre et ciel, n'est-ce pas? Tien dit je tien, comme un grand soufflet. Donc l'antre de l'entretien, alors oui, Pontigny, n'est-ce pas, les entretiens de Pontigny, tenir l'antre, beau verbe français, entre, tenir l'antre, entretien du monde, entretien de la vie, non pas interview, mais entretien, la poutre qui entretient les murs, qui les fait tenir ensemble et qui assure leur cohérence. L'antre va de pair, évidemment, avec la cohérence, et non plus la question du sens. L'antre de l'intime, dans des petits bouquins sur l'intime, c'est ça que j'essaie de poursuivre, l'intime c'est de l'antre. Et dans celui que je finis sur le paysage, c'est pas assignable, c'est de l'antre. C'est pas assignable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu propre, il n'y a pas de propriété qui s'en démarque, c'est activer de l'antre. Bon, entretenir. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit, en tout cas, il y a un concept qui est dessous, vous voyez, qui pour moi devient essentiel, c'est pour ça que j'ai commencé par lui ce matin, c'est celui de tension. L'antre met en tension. Tension. Alors ça, c'est pas un concept grec. Il y a bien tonos en grec, c'est vrai. Mais tonos n'a pas eu de destin philosophique en grec. C'est un terme qu'on trouve surtout développé chez Plutarque. Plutarque qui décrit les usages. Mais ce n'est pas un concept platonicien. Plutôt c'est un concept anti-platonicien que tonos. Par rapport au paysage dont je m'occupe, ou dont je suis en train de finir de m'occuper, il y a une chose qui me frappe, c'est quand on parle d'un paysage, on dit qu'il est un beau paysage. Et donc on pose sur paysage une sorte d'étiquette, c'est beau, beau paysage. Et je crois qu'on s'arrête trop tôt, d'abord parce qu'on pense au paysage comme de la vue, et d'autre part parce que, alors que montagne haut en chinois nous décale de ça, hein, complètement, dès le départ. Et secondo, parce que, au fond, le paysage, ce que dit bien la Chine, c'est de la corrélation. Ça se passe entre les montagnes et les eaux, entre le visible et l'audible, entre le figé et le mobile, etc. Mais surtout donc parce que il me semble que, parce qu'on a pensé la beauté, je vais faire chez Platon, hein, il a fallu penser Eros, c'est-à-dire le désir, comme étant ce qui nous élève à la beauté. Donc il faut une sorte, un gros appareil où il y a la beauté, l'idéal, le lieu des idées. La beauté, c'est l'idée essentielle chez Platon, parce que c'est l'idée qui est une idée, mais qui est du sensible. C'est donc celle qui fait la relation entre le sensible et l'intelligible. Il n'y en a qu'une, c'est elle. Ça, c'est le thème du Phèdre. Mais donc, même cette idée-là, qui est celle qui relie les deux, l'intelligible et le sensible, le noéton et l'oraton, qui est l'idée du beau, donc idée privilégiée, celle dont parle toujours, dont part toujours Platon, hein, passer des choses belles au beau en soi,
Cette idée-là, néanmoins, elle ne se suffit pas, puisqu'il faut quelque chose qui l'attend par-dessous, qui est le désir, l'éros. Il me semble donc que nous n'avons pas développé de pensée de la tension, ou de la mise en tension, de la mise sous tension. Et c'est ce que j'étais amené à essayer de penser à propos de l'intime, mise en tension entre deux personnes, hein, ou du paysage, qui est une mise en tension. Et un champ tensionnel dans lequel nous fait entrer le paysage, quand de pays, il devient paysage. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important parce que, et derrière que je reviens à penser de l'écart, évidemment. Parce que l'écart, à la différence de la différence, qu'est-ce qu'elle fait ? Différence ressemblance, c'est pareil, ça on l'a dit, n'est-ce pas ? La différence, elle range. Et c'est ça le comparatisme. L'écart, il dérange. Il dérange parce que il met en tension ce qui l'a séparé. Comme on dit en français communément, faire un écart. Dans sa vie, j'ai fait un écart. Je suis sorti de la position normale, n'est-ce pas ? Moi, j'essaie de faire un écart en sinologie. C'est pour ça que certains ne m'aiment pas, n'est-ce pas ? Parce que je fais un écart, comme on dit honteusement, il a fait un écart. Faire un écart. Eh bien, un écart, justement, c'est ce qui met en tension. Il y a de tension que par écart. Cette poutre, n'est-ce pas ? Tiens, c'est mieux écarté et les fait tenir. Cohérence, écart, tension, voilà. Tout ça s'ordonne autour d'un réseau qui n'est pas celui du sens, qui n'est pas celui de l'être, qui n'est pas celui de l'être parce qu'il est celui de l'antre, donc j'oppose les deux, bien sûr, et que j'essaie comme ça, pas à pas, chemin faisant, d'esquisser. L'intime, au fond, c'est de la tension, intime-extime, pour ça j'ai besoin de l'extime, l'extime pour relancer la tension de l'intime, pour moi ça l'extime. C'est ce qu'il faut d'extérieur au rapport intime pour que l'intime ne s'endorme pas, ne perde pas sa tension intime et se réveille, n'est-ce pas ? Donc faire revenir de l'extérieur pour réveiller le désir que l'intime pourrait faire disparaître, bref. C'est ce qui me conduit à l'opposition avant-dernière ou antépénultième, après j'arrête. Ce sont deux concepts qui sont... Oui, mes concepts marchent par paire, évidemment, parce que comme je prends des choses, je cherche un terme souvent marginal, que j'essaie d'élever à la dignité du concept en vis-à-vis d'un grand concept constitué, ontologique, bon, etc. Ce que j'appelle l'essor. L'essor, alors que je poserai là non pas un autre terme d'un registre qui est l'étal. L'étal, l'essor, voilà un couplage pour moi conceptuel. L'étal, on sait ce que c'est. La langue le dit. Ce qui s'immobilise, platement là, sous les yeux. La mer étale. Le navire étale. Ça bouge plus. C'est parce que c'est là. Parce que c'est là. Alors, vous voyez, sous l'étale, je cherche à décrire la catégorie ontologique par excellence. L'étale. Ça, son en soi quant à soi, c'est déterminable, mais ce n'est que ça. Oui, c'est le concept ontologique par excellence, l'étale. C'est comme ça que je décrirais négativement ou de façon soupçonneuse, ce qu'est l'ontologie, c'est que l'ontologie nous situe au stade de l'étal, donc de l'immobiliser, le platement là, ce qui coïncide parfaitement avec soi. Voilà, l'étal, c'est ça. C'est ce qui coïncide parfaitement avec soi, donc le en soi quant à soi, auto-catoto, celui de l'essence platonicienne. À quoi je poserai l'essor ? L'essor, c'est l'inverse. C'est quand ça ne coïncide pas avec soi, donc que c'est effectif, que c'est à l'œuvre, que c'est en cours. L'essor. Essor face à étal. C'est ce que j'ai essayé de développer dans un petit bouquin que j'avais appelé « Philosophie du vivre », que j'ai repris à propos de l'intime, que je reprends à propos du paysage. Donc vous voyez, concept pour moi, parce que ça me sert d'outil. Et que je prendrai pour essayer de le figurer dans cette formule qui était la formule d'entrée du Lao Tzu, qui n'est pas le Tao dont on parle toujours, non, c'est pas ça, c'était Shang de Bouddha, Sui Yode, c'est pas la vertu supérieure n'a pas de vertu, c'est pour la vertu supérieure n'est pas vertueuse, c'est pourquoi elle a la vertu. La vertu supérieure n'est pas vertueuse, Shang de Bouddha, la vertu, je préfère dire capacité, hein, parce que vertu, bon, ou vertu au sens de la vertu d'un médicament. La vertu supérieure, Shang, au-dessus, n'est pas vertueuse, c'est pourquoi elle a la vertu, et évidemment l'inverse, la vertu inférieure ne quitte pas la vertu, c'est pourquoi elle est sans vertu. On dit paradoxe, c'est pas un paradoxe, c'est quelque chose que nous vivons tout le temps, toujours, n'est-ce pas ? Qui est que il n'y a d'effet que par des coïncidences. Quand ça coïncide parfaitement avec soi,
que c'est un bon plat pour l'ontologie, c'est pas. Bon, c'est mort. C'est mort, c'est ennuyeux, c'est mort, enfin, bon, bref. Il faut donc distinguer deux stades. Le stade du déterminatif, comme ça coïncide avec soi, qui a donc les marques de la chose. Aussi bien quelqu'un dont on dit qu'il est vertueux, c'est qu'il ne l'est pas. Il ne l'est plus. Quelqu'un dont on puisse compter les actes de vertu. Enfin, il fait des actes de vertu, qu'on repère comme tel, on dit il est vertueux, bon, ou il est religieux, c'est pas. Une fois que, quand vous avez mis l'appellation là-dessus, coller l'étiquette, ça n'y est plus. Il y a donc une non-coïncidence essentielle qui nous permet donc d'opposer deux stades, le stade, de l'effet, le stade du déterminatif, quand on met l'étiquette, il est vertueux, il est religieux. La grande phrase de Pascal dit la même chose. Pascal est quand même plus intelligent que ce qu'on lui fait dire. La grande éloquence se moque de l'éloquence. Ça signifie exactement ça. C'est quand vous dites à quelqu'un qu'il est éloquent, il ne l'est pas, il ne l'est plus. Son éloquence est déjà compassée, déjà trop fignolée, c'est du bien écrit. Des coïncidences essentielles qui conduisent donc à distinguer le stade de l'étal où c'est repérable, distinguable, identifiable, assignable, où il y a la propriété, et le stade donc qui n'est pas du déterminatif mais de l'effectif, où c'est à l'œuvre, en cours, donc non encore repérable, non encore, bon. Je crois que l'histoire de l'art, c'est ça. Belle phrase de Lao Tzu, d'ailleurs. Quand on dit que c'est beau, c'est déjà plus beau. Tous ceux qui cherchent à faire œuvre d'art savent bien que quand on dit quelque chose est beau, quand on dit même l'impressionnisme c'est beau, ben, il faut faire autre chose. C'est, pas, c'est plus là, ça se passe. Donc je crois qu'il y a une opération là qui est... Donc j'essaie de veiller tout ça, de traiter ça autour de sortir de l'ontologie. Hein. Sortir de l'assignation, sortir de la détermination. Le grand parti pris grec, pas plutôt de la philosophie, de... Je dis Parménide à Hegel, c'est que c'est la détermination qui fait être. L'être se saisit dans la détermination. Tu vois que les peintres peignaient jusqu'au bout. Mais on sait depuis la modernité, et ça c'est ça qui vient, pour une part, à mon sens, la modernité, et l'émergence du négatif, c'est qu'on s'est rendu compte que l'esquisse vaut plus que le tableau fini. La phrase que je cite souvent, ceux qui me connaissent l'entendent chaque fois, mais je la trouve inépuisablement belle, la phrase de Baudelaire, reprise par Malraux et surtout Merleau-Ponty, il y a des tableaux qui sont faits et qui ne sont pas finis, et des tableaux qui sont finis et qui ne sont pas faits. C'est ça, la position, étale et sort. C'est ça. Les tableaux qui sont finis et pas faits, c'est qu'ils sont dans l'étale. La peinture qu'on, met, qu'on envoie, n'est-ce pas, pour les expositions, et puis la peinture, où la peinture est à l'œuvre. D'où la valeur attribuée à l'esquisse dans la peinture moderne, n'est-ce pas ? Donc, qui n'est pas saturée dans sa capacité, où la capacité reste à l'œuvre, n'est-ce pas ? Bon, bref, la vertu supérieure n'est pas vertueuse, c'est pourquoi elle a la vertu, n'est-ce pas ? C'est dire donc, cette, ce qui au fond est en jeu dans tous ces concepts que je vous présente comme ça, un peu à, en enfilade, qui est cette effectivité échappant à la prise ontologique, celle de l'assignation, de la propriété, de l'en-soi, et donc de la détermination. Or, l'affaire du logos, c'est ça. Le logos détermine. Et dire, comme Aristote, que parler, c'est dire, dire, c'est dire quelque chose, c'est signifier quelque chose, c'est pas. Et comme le dit Aristote, ça va en disant que ce « ti », ce « quelque chose » doit être une chose unique, donc déterminée, hein. Dans un billet de termes dedans, déterminé, c'est la grande opération, effectivement, de la philosophie à partir de Parménide, celle à laquelle échappait Héraclite. Donc l'altérité n'est pas avec la Chine, elle est au sein de nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'altérité grecque, de voir comment, au fond, Héraclite était impossible que Aristote affirmait. Et donc, on est toujours entre des possibles. Il fallait vraiment me lire mal pour penser que j'avais mis l'altérité du côté chinois. Bon, donc cette non-coïncidence qui est l'effectif, qui fait qu'il y a à coïncider, bon, c'est une, un point qui me paraît pouvoir développer. Parce qu'il y a une chose d'expérience, n'est-ce pas ? Distinction entre le mariage et vivre à deux. Le mariage qui serait l'étal, n'est-ce pas ? L'étal, c'est déterminé, la vie à deux normalisée, état civil, le mariage, et puis vivre à deux, toute autre chose. Qui activait l'intime, créer de l'antre, entretenir de l'antre. Ben bon. De même, pays et paysage. Pour moi, le pays, c'est de l'étal, et le paysage, c'est de l'essor. De l'essor dans l'étal, c'est comme ça qu'on passe du pays au paysage. Bon, je vous promets, c'est le dernier, non, l'avant-dernier. L'évasif. L'évasif, j'y tiens. Parce que c'est pour moi aussi la modalité non ontologique. Alors, évasif en français, bien sûr, une phrase évasive. Votre réponse est évasive, c'est pas très bon. Enfin, mais l'évasif me paraît pouvoir, comment dire, dans notre langue, parce que la difficulté, elle est à dire dans notre langue ce qu'elle n'a pas appris à dire, ou qu'elle est maladroite à dire, qu'elle est gourde à dire, n'est-ce pas ? Hein ? On est gourd à saisir. Eh bien, l'évasif, c'est ce qui échappe à la détermination. Ce qui n'est pas l'en soi, qui n'a pas de propriété. Donc c'est ce qui, évidemment, échappe à ce grand parti pris qui va, encore une fois, de Parménide à Hegel, que plus cela est déterminé, plus cela est. Alors l'évasif est ce mode inverse de ce qui se dégage, de ce qui se décante, de ce qui s'exhale, donc de ce qui est ambiant, de ce qui est prégnant, de ce qui est envahissant, bref, entre. C'est la modalité du Tao dans le Lao-tzu, n'est-ce pas ? Pruhuang. C'est m'intéressant à la question du paysage, et devant la formulation qu'on a dans la bouche, l'esprit d'un paysage, j'étais amené à réfléchir davantage sur que, comment dire, parler de l'esprit sans que ce soit du spirituel. Parce que dès qu'on parle de spirituel, valeur spirituelle, on hausse les épaules, on en a déjà marre, n'est-ce pas ? Par tout ce qu'il y a eu d'ascétisme philosophique précédent, n'est-ce pas ? Le mot est chargé maintenant de... Mais quand on dit esprit du vin, esprit d'un parfum, l'esprit de sel, n'est-ce pas ? Là, vous avez l'esprit d'une toute autre ressource, un autre possible du mot esprit, qui n'est pas le possible religieux, qui n'est pas non plus le possible philosophique, qui est le possible du nous grec, n'est-ce pas ? L'esprit séparé du corps, l'esprit de l'intelligible, le noéton, n'est-ce pas ? Mais quand vous dites l'esprit du vin, vous là, vous prenez l'esprit dans une autre ressource qui est dans notre langue. Et je veux faire travailler, quand je dirais esprit du paysage, quand on parle d'aura, l'aura, c'est quoi ? L'évasif. Bien, c'est qu'un paysage n'est plus pays, n'est plus dans l'étal du pays, devient paysage, connaît l'essor du paysage par la corrélation justement des montagnes et des eaux, du visible et de l'audible, etc. Parce qu'il dégage, il décante, dégagé par un terme important, décanté. Tout ce dé du défaire de l'ontologie, n'est-ce pas, qui fait que j'avais essayé de faire travailler dans dépeindre, quand je dé tirer peindre, non pas le dépeindre qui est mieux que peindre, peindre jusqu'au bout, comme on dit, peindre n'implique pas d'objet, écrire n'implique pas d'objet, je veux dire j'écris. Et si je dis je décris, il y a un quoi, il y a un ti, il y a un quelque chose que je décris. Si je dis je peins, c'est pas ce que je peins, je dépeins, on sait qu'il y a un ti, il y a quelque chose que je vais peindre, toujours l'objet. Mais si je comprends le dé non pas comme le perfectif, mais comme ce qui défait, défaire, dépeindre, retirer dans ma peinture, justement, la peinture de l'objet. Quand je désécrire, c'est retirer de écrire le ti, le quelque chose, comme objet d'écrire. Bon, modalité de l'évasif, évidemment, c'est ce qui échappe le plus à la prise du philosophique, parce que c'est la prise de la détermination, et ce qui implique, pour en parler, de défaire la langue, n'est-ce pas ? De faire fondre nos plis, pour arriver à, chemin faisant, là, en déroulement, faire que la phrase puisse arriver à dire de l'inassignable ou de l'évasif. Bon, en tout cas, le dernier, j'en ai parlé tout le temps, c'est ressources. Ressources. Si je parlais du possible dans ce sens-là, ressources, pour moi le philosophe c'est quelqu'un qui explore, exploite des ressources. C'est pas quelqu'un qui forcément prend position pour ou contre, même si c'est l'exercice traditionnel de la philosophie, thèse, antithèse. C'est surtout pas quelqu'un qui prêche comment vivre, en quoi je distingue fondamentalement la philosophie de tout ce qui touche plus ou moins au développement personnel ou à l'idée de se raconter. C'est quelqu'un qui explore des ressources, des possibles. Alors, je vous évoquais quelques possibles. Alors, mes possibles, évidemment, je vais les prendre ici ou là. Je voyage entre des possibles. Il y a des possibles plus développés en Grèce, des possibles plus développés en Chine. Mais l'affaire, c'est ça. C'est qu'au fond, je crois que c'est la chance de notre époque. C'est que nous ne sommes plus dans une culture comme ça. Et la rupture par rapport aux générations précédentes. Mes parents, mes grands-parents, ils vivaient dans un monde d'humanité grecque, latine. Enfin, bref, il n'y a pas vraiment d'ailleurs. Où l'ailleurs biblique était très intégré, ou travaillait depuis très longtemps avec, depuis la patristique en tout cas. Non, c'est de penser qu'au fond, philosophie, c'est peut-être ça, c'est l'art du sourcier.
sourcier, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche des ressources, et qui, les détectant, les repérant, les explore, les exploite, en tire parti, bref, c'est de ça un peu qu'il s'agirait. Ressources du logos. Il y a des ressources du logos, qui ont été les ressources de la science, de l'histoire, mais il y a d'autres ressources que celles du logos, comme celle de l'évasif ou de l'allusif. Ressources d'explication causale, lesquelles qu'on a bien joué, mais ressources aussi de la corrélation, les Chinois le font bien. Voyez comment je mets en rapport ressources et disponibilité. Il faut rendre son esprit disponible pour détecter des ressources. Donc disponibilité est à la fois, est aussi, je crois, une aptitude ou un ethos philosophique. Ethos philosophique, disponibilité, qui est cette capacité à détecter des ressources et en tirer parti, n'est-ce pas ? Parce que le problème, c'est quoi ? Le tort, c'est pas qu'on se trompe, c'est qu'on passe à côté. On peut passer à côté de ressources. C'est pas l'erreur qui me paraît grave. C'est passer à côté. Rater. Ressource de l'intime. Pour moi, l'intime est une ressource. Alors, on peut exploiter cette ressource-là ou ne pas la connaître, passer à côté. Ressource du paysage. On peut l'exploiter, en vivre, se ressourcer dans du paysage. On peut passer à côté et le rater. Donc, l'ontologie est une ressource, grande ressource, qu'on ne cessera pas d'exploiter, comme une mine riche à l'extrême. Mais il y a d'autres ressources, ce qui amène à reconfigurer le concept de vérité. Moi, le concept de vérité n'est plus ce concept comme ça, dominant la philosophie, mais le concept de vérité doit travailler à l'intérieur des ressources ou des possibles de la philosophie. Chaque possible reconfigure la vérité à sa façon, et je ne suis pas sûr qu'elle communique entre elles, ou je puisse dialectiser entre elles, non. Je pense qu'il y a des possibles concurrents, n'est-ce pas, qui ne se couchent pas sous un même ordre de vérité, et que penser, c'est voyager, circuler entre des ressources pour les activer. J'ai fini.